وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, مرحبا بكم ce soir avec nous. Normalement le dars devait commencer à يعني combien à 22h chez moi, 22h chez moi, c'est-à-dire à 20h chez vous. Mais je n'ai pas commencé parce que il y avait le dars dans les repères de la sunna. J'ai pas voulu diviser, j'ai préféré que يعني l'autre termine ou que je commence premièrement, et deuxièmement j'étais aussi occupé dans une autre salle, une salle qui parle en langue allemande. Pour ça que j'étais aussi occupé. Maalesh. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer. Plutôt, on va yani suivre. On a commencé, ça fait très longtemps, le fiqh. On a commencé du début, comme vous devez le savoir. Du début, yani des wudu, etc. Aujourd'hui, on va yani continuer. On a le chapitre des monstrues. Les monstrues, comme a dit Cheikh Ben Othaymin, alayhi rahmatullah, il a dit, c'est un yani bah, la sahila lahu. Il a dit, c'est une mer qui n'a pas de bord. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, etc. C'est pour ça que vous trouvez que la femme elle-même, pourtant cette chose est propre en la femme, et pourtant elle-même, elle a des problèmes des fois avec ces choses. Cette chose, elle ne comprend pas comment qu'elle doit faire, etc. Tellement c'est compliqué. Mais inshallah ta'ala, si elle comprend les règles inshallah ta'ala que je vais donner, ça va beaucoup l'aider, surtout la femme qui est très intéressée yani par cette chose, parce que c'est une chose qui ne vient qu'à la femme. C'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse inshallah ta'ala quelques efforts pour comprendre cela. Quand je terminerai inshallah ta'ala les monstrues, ensuite les logis, ensuite istihada c'est l'hémorragie, ensuite il y a 60 questions qui ont été posées à Cheikh Ben Othaymin, rahmatullah, surtout en ce qui concerne les monstrues, et il a répondu. Ces questions-réponses, je les lirai, inshallah ta'ala, dans le prochain dars, ou bien l'autre, inshallah ta'ala, qui va suivre. Donc, les monstrues, qu'on appelle en arabe al-hayd, قال الله عز وجل, يسألونك عن المحيض, قل هو أذى, فاعتزلوا النساء في المحيض, ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et les monstres هو دم أو دم عفوا طبيعي وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. Le sang des monstres, c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui vient avec des عارض. C'est comme l'hémorragie. Non, c'est quelque chose de naturel qui vient et qui doit venir. C'est pas comme l'hémorragie, elle doit pas venir. Si elle vient, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème qui a fait de sorte qu'on a eu une hémorragie. Istihada. Mais le hayd, c'est quelque chose de naturel et qui touche bien sûr toutes les femmes, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal a créé les monstrues pour que ça soit une nourriture pour celui qui est dans le ventre de sa mère, ou le bébé, c'est une nourriture pour lui. Naam. Cette chose-là devient une nourriture bifadlillahi azza wa jal. Subhanallah al-azim. Bifadlillahi azza wa jal. Cette chose va se transformer plus tard et devenir, bien du lait bien sûr, et devenir une nourriture pour le bébé, alors que c'était yani du sang. C'était du sang yani noir avec une mauvaise odeur, etc. Et pourtant maintenant c'est yani l'une des plus grandes vitamines pour le bébé, et c'est yani une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala parce que le bébé ne peut pas manger à l'intérieur du ventre. Car s'il mangeait comme nous, par exemple, si on lui donnait le pain, on lui donnait n'importe quoi, il aurait besoin de faire ses besoins. Il ne peut pas faire ses besoins à l'intérieur du ventre de la femme. Donc, c'est une chikma, une grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, s'il mangeait avec elle, quand elle mange, elle, la femme qui est enceinte, il mange lui aussi, ça va quoi? Ça va l'affaiblir. Donc l'Azajul lui a donné un manger spécialement pour lui. C'est pour ça que les ulama disent, il est très rare qu'une femme qui soit enceinte ait les menstrues. C'est rare qu'une femme qui est en grossesse, elle peut avoir les menstrues. Ça existe. Il y a plusieurs femmes qui l'ont eu, mais c'est une exception. La règle, c'est que quoi? C'est que la femme qui est en grossesse n'a pas de menstrues, la règle. Mais des fois, elle l'a. C'est pour ça que des fois, une femme, quand elle fait les logis, des fois, quand elle termine les 40e jour, elle rentre en même temps dans les menstrues. Les menstrues deviennent une suite. Mais parfois, où c'est plus, je vais pas dire grave, parfois étonnant, c'est que en pleine grossesse ou au milieu des grossesses, elle a des menstrues. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, je vais parler de waqtuhu, comment il vient le moment, etc. Mais avant cela, je vais parler de quelque chose qui n'est pas ici sur le livre. Je vais dire que comment c'est venu pour la première fois les menstrues. Comment c'est venu pour la première fois. Certains, les ulama ont divergé ici. Beaucoup de ulama, la plupart, ont dit que la première fois que les menstrues ont apparu, c'est chez Hawa. Chez Hawa, c'est la première femme qui est venue au monde, c'est elle la première qui a eu cela. D'autres ont dit non, d'autres ulama ont dit non, la première fois que la femme a eu les menstrues, la première femme qui les a eues, c'était au temps de Moussa alayhi salatu salam, yani Iwaqt ben Israël. Les premiers, bien sûr, ont un dalil, les deuxièmes ont un dalil. Je vais donner le dalil de ceux qui ont dit que la première femme qui a eu les menstrues, c'est Hawa alayhi salam. Vous connaissez le hadith sahih qui est dans le Bukhari et les autres, que Aïcha radiallahu ta'ala anha, une fois elle était au Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Sarif, c'est un endroit qui s'appelle comme ça, il s'appelle Sarif. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha a eu ses menstrues. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré dans la tente, il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a dit, anoufisti, c'est-à-dire, est-ce que tu as eu des menstrues? Elle a dit, naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna hada amrun katabahu Allah ala banati Adam. C'est une chose que Allah Azza wa Jal a écrite sur toutes les filles de Adam. C'est-à-dire, pour pas pleurer, tu n'es pas la seule à avoir eu cela. Ça veut dire, c'est pas ta faute. Ensuite, il a dit, faqdi ma yaqdi al-hajj, ghayra annaki la tatufi bi. Fais tout ce que fait le hajj, quand il est en hajj, seulement ne fais pas le tawaf, ne tourne pas autour de la Kaaba. C'est pour ça qu'une femme, quand elle va au hajj, si jamais elle a les menstrues, elle a commencé, elle termine. Seulement, ce qu'elle fait pas, elle tourne pas, autour de la Kaaba. Mais elle fait Safa al-Marwa, elle fait toutes les autres choses. Al-Muhim, il lui a dit, ne pleure pas, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla a écrit sur toutes les filles. Ça veut dire, toutes les femmes du monde ont cette chose. En quoi? En les menstrues. Donc là, c'est un dalil que quoi? Que toutes les femmes du monde ont les menstrues. Donc même Hawa, la première à avoir les menstrues. Et les autres qui ont dit que les menstrues n'ont pas commencé chez Hawa, mais chez Bani Israël, ils ont dit, il y a un hadith sahih qui a été rapporté par Abdelzak, min tariq Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi, le compagnon Jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, isnaduhu sahih. Il a dit, كان الرجال والنساء, il a dit, les hommes et les femmes, autrefois, au temps de Moussa, alayhi salatu salam, faisaient la prière ensemble, jami'an. Pas comme maintenant, maintenant la femme fait la prière derrière, et l'homme devant. Autrefois, faisait un mélange, il n'y avait pas de problème. فكانت المرأة تشرف للرجال. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait, par exemple, que les hommes la voient, elle voulait qu'elle soit devant les hommes, elle voulait, etc. Elle voulait des choses. Alors, Allah Azza wa Jal, le hadith a dit, فألقى الله عليهن الحيض. Il a dit, alors Allah Azza wa Jal a jeté sur les femmes الحيض. C'est-à-dire que, voilà la première fois que les menstrues ont commencé à cause d'un péché qu'a fait une femme de Bani Israël. Ils ont dit, on a ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud et on marche avec ce hadith. Mais en fin de compte, si on réfléchit bien, on trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Certains ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. Lorsqu'il a dit que ça c'est une chose que Allah Azza wa Jalla a écrite sur les filles de Adam. Il a dit, les ulama ont dit, le prophète alayhi wa sallam voulait dire, les filles de Adam ici, voulait dire les femmes de Bani Israël. Il a dit, on appelle au sulfiq, on appelle Am Urida Bihil Khusus. Quelque chose qui, lorsqu'on l'a dit, on l'a dit en général, mais on veut dire quelque chose de particulier. Ça existe beaucoup dans la charia. Par exemple, dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. Il parle du Hajj. Il a dit ثُمَّ أَفِيضُ, aller à peu près, aller du côté d'où les gens allaient. نَاسُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. النَّاس ici, c'est Ibrahim. Il parle d'une seule personne. C'est Ibrahim. Et pourtant, il a dit نَاسُ. Donc, عَمْ أُرِدَ بِهِ الْخُصُوصُ. C'est quelque chose de particulier, de général, نَاسُ, mais il voulait dire Ibrahim, c'est tout. Les ulama ont dit ici la même chose. Il a dit les filles de Adam, il veut dire les filles de qui? De Bani Israël, c'est tout. Et d'autres ont dit, on a autre chose pour joindre entre les deux hadiths. On va dire que, certes, la première femme qui a eu les menstrues, c'est Hawa. C'est Hawa parce qu'on a un hadith sahih qui a dit comme ça. Il a dit, Kul Banat Adam. Et la deuxième, pardon. Et donc on va dire, la première femme qui a eu cela, c'est Hawa. Et on va dire, pour le hadith qui a dit c'est Ben Israël qui ont eu ça la première fois, on va dire, mais au temps de Ben Israël, lorsque cette femme a fait ce péché-là, Allah Azza wa Jal a accentué les monstres. Auparavant, c'était juste un peu, mais maintenant après ce péché, c'est le vrai, les vrais monstres. Avec la couleur noire, avec l'odeur, avec ceci, avec cela. Ils ont dit, voilà comment on va joindre entre ces deux hadiths. On va dire, auparavant, certes, il y avait les monstrues, mais Allah Azza wa Jalla, lorsque les femmes de Ben Israël ont fait le péché, il l'a rendu plus fort et il l'a plus accentué avec l'odeur, avec il coule beaucoup. Peut-être auparavant, peut-être c'était un jour ou un demi-jour. Une demi-journée, maintenant c'est 6 ou 7 jours. Voilà comment on dit les ulama pour joindre entre les deux hadiths. Et bien sûr, il n'y a jamais de contradiction entre deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam si les deux hadiths sont vrais. Et la contradiction se trouve toujours dans nos têtes. C'est nous qui ne comprenons pas bien les choses et on croit qu'il y a contradiction. Ma'adallah, istaghfirullah, qu'il y ait contradiction dans deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien dans un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waqtuhu, quand est-ce que commencent les menstrues, à quel âge elles commencent? Laysa fi sunnati tahdid li sinni al-bint allati tahidu fih. Il n'y a pas dans la sunna, il n'y a pas un hadith qui dit que à tel âge la fille, à tel âge, à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, elle a les menstrues. Il n'y a pas un hadith qui dit cela. وَيَنْبَغَيْنْ يُنْدَرْ إِلَا صِفَةِ الدَّمْ طَارِقْ. Mais on regarde seulement le jour où elle commence à avoir du sang, et puis on regarde si ce sang est vraiment le vrai sang. Car le sang des menstrues, il est connu, il a trois repères. Il a trois choses, trois je crois le alamat, j'ai oublié comment... السلام عليكم ورحمة الله. في صوت لا ما فيش صوت. Tessaout, barakallahu fik. Bon, c'était un problème de connexion, vous devez, yani, inshallah ta'ala, vous savez cela. Je disais que pour une fille et pour un garçon, le maximum de l'âge de la puberté, c'est 15 ans. Si on a un enfant, un garçon ou une fille, 15 ans, c'est le maximum. Si à 15 ans, la fille n'a pas eu les menstrues, il faut, خلاص, elle est pubère. Elle doit, commencer. Elle doit faire la prière, elle doit plus la laisser. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue pubère à l'âge de 15 ans. Donc 15 ans, c'est le maximum. Maintenant, donc j'ai dit qu'il n'y a pas un âge pour le début, en ce qui concerne les menstrues, il n'y a pas un âge précis. Ça change d'une fille à une autre. On trouve deux sœurs, deux sang, et ça change de la première sœur à l'autre. C'est pas la même chose. Celle-là, elle les a 6 ans, l'autre, elle les a 10 ou la 11 ans. Al-Muhim. Maintenant, sa couleur, il y a quatre couleurs. Awalan Sawad. Là, la couleur noire, il est connu par la couleur noire. Les hadiths Fatima, bint Foubeish, radiallahu ta'ala anha, elle avait des hémorragies. Elle est allée se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est-à-dire elle disait, je ne sais plus maintenant, ça s'est mélangé, j'ai des hémorragies, j'ai le sang qui n'arrête jamais. Comment je sais? Si c'est les menstrues ou bien si c'est autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, إِذَا كَانَ دَمَ حَيْضٍ, si c'est le sang des règles, فَإِنَّهُ أَسْوَدْ يُعْرَفْ, il est noir, il est connu. Donc il lui montre le premier signe, il lui dit il est noir, il est connu. Si tu trouves le sang noir, il lui dit فَأَمْسِكِ عَنْ صَلَاتِ, arrête de faire la prière. Et bien sûr elle arrête aussi de faire le jeûne. فَإِذَا كَانَ الْأَحَرْ, si c'est l'autre sang, c'est-à-dire celui qui n'est pas noir, le connu, فَتَوَضَّعِ إِنَّمَا هُوَعِرْ, donc fais la prière et tu fais les ablutions pour chaque prière et il n'y a pas de mushkila, c'est seulement une hémorragie. Il y a aussi B, deuxièmement, الْحُمْرَ, rouge, la rougeur. Troisièmement, الصُّفْرَ, c'est quoi la rougeur? Quand il commence, il est noir. Ensuite, s'il commence à devenir rouge, on ne va pas dire ça. Et puisqu'il n'est plus noir, il est rouge, donc ce n'est pas les menstrues. Non, on est toujours en plein menstrue, tant qu'il y a le sang et qu'il est rouge aussi. Troisièmement, Sofra. Il commence à devenir jaune. Sofra. Sofra, les ulama disent, c'est le... Non, pardon, c'est pas jaune. Ils disent, هو ما كان لونه نحو, هو ما كان لونه ما تراه المرأة كالصديد. صديد يعلوه الصفرات. J'ai cherché dans ma mémoire, j'ai cherché comment on dit quelque chose صديد en français, j'ai oublié. صديد c'est quand par exemple on a un morceau de fer, on le laisse mouiller, on le laisse mouiller un mois, deux mois, une année, deux années. Il devient sadid, il devient msabbad. Je ne sais pas, j'ai oublié comment on dit ça en français. Ya'louhu sfirar. Il a dit, la troisième couleur, c'est qu'il soit. Comme le fer qui a été touché par l'eau, etc. Sadid, donnez-moi le mot, comment on dit msabbad. Sadid, avec une couleur jaune en haut. Yani du jaune mélangé un peu. Rouillé, barakallahu fik, mishaf, rouillé. Non, c'est ce que je cherchais, barakallahu fik. Donc il a dit rouillé avec un peu de jaune en haut. Il commence par être jaune en haut, ensuite on trouve en bas qu'il est rouillé. C'est la troisième couleur. La quatrième couleur, donc la troisième rouillée avec, du jaune avec le rouillé. La quatrième couleur, le kudra. Wa huwa ma kana lawnuhu ينحو نحو السواد. الكدرة سي ça ressemble un peu au noir mais c'est pas très noir, ça penche vers le noir mais c'est pas noir à 100%. Peut-être, je dis peut-être, c'est marron, foncé. Les hadiths Alqama, بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. Ce compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم a dit, sa mère a dit que autant de Aïcha رضي الله تعالى عنها, les femmes qu'est-ce qu'elles faisaient, elles envoyaient à Aïcha رضي الله تعالى عنها quelque chose comme ça, comme un petit tiroir. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du coton. Et sur le coton, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelque chose qu'elle venait de retirer des parties intimes. Juste pour envoyer à Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui est la femme du prophète, qui est la femme qui a le plus de science dans le monde, comme vous savez, yani, surtout en sharia. Donc elle lui a envoyé pour qu'elle leur dise, est-ce que ça, yani, c'est les règles, où là on s'est purifié. Donc on envoyait à Aïcha du coton radiallahu ta'ala anha, yani mouillé avec, yani après l'avoir fait sortir des parties intimes. Alors Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait radiallahu ta'ala anha? Elle disait la ta'jalna, ne vous pressez pas hatta tarayna al-qassat al-bayda, jusqu'à ce que vous voyez le liquide blanc, jusqu'à ce que vous voyez le liquide blanc. Donc ici il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que même les femmes, pour eux c'est compliqué. La preuve, voilà des femmes devant nous ici dans ce hadith, elles ne savent pas si c'est les mensonges ou ce n'est pas les mensonges, au point où elles l'envoient à Aïcha pour demander. Il y a des wahda, premier intérêt, que le haïdada, les mensonges, c'est vraiment quelque chose de difficile et que des fois ça fait des problèmes au point où la femme ne sait pas. Et deuxièmement, que ce n'est pas aïb. Si quelqu'un voudrait savoir, si une femme voudrait savoir si elle est en monstrueux ou elle n'est pas en monstrueux, et elle montre par exemple à quelqu'un, à une autre, qui est plus savante qu'elle, elle dit moi je ne sais pas si c'est monstrueux, c'est pas monstrueux, je vais te montrer et tu vas me dire. Mais elle lui montre le coton, elle ne lui montre pas yani c'est parti à elle. Elle lui montre quelque chose dans le coton, elle lui dit, puisque toi tu as du ilm, dis-moi est-ce que ça c'est haïd ou bien je fais la prière, ou bien yani, c'est une hémorragie, fait la prière, si elle sait que la femme à laquelle elle va montrer c'est une femme de science. Donc elle, ce n'est pas aïe, mais elle ne doit pas lui montrer, comme vous savez, ses parties intimes. Et dans un autre hadith, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle disait إِذَا رَأَتِ الدَّمْ فَلْتُمْسِكْ عَنْ صَلَةٍ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضْ كَالْفِضَّةِ ثُمَّ تَسُلْ وَتُصَلِّي. Dans un autre hadith, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit, si elle voit le sang, elle doit s'arrêter de la prière jusqu'à ce qu'elle voit la purification ou la pureté, jusqu'à ce qu'elle voit qu'elle est pure. Elle a dit, abyad, quelle fait là, comme l'argent. Il y a un liquide qui est blanc comme de l'argent. Seules les femmes le connaissent. C'est pour ça que je voulais dire le deuxième intérêt, le troisième, les femmes, en ce qui concerne la purification, se divise en deux sortes. Il y a des femmes qui, à chaque fois, après qu'elles se purifient, il y a un liquide qui sort, un liquide blanc. Ça s'appelle le qassal bayda. Cette femme qui est de cette sorte ne doit jamais dire je me suis purifié si elle ne voit pas le liquide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une femme de la sorte qui a le liquide blanc. Donc elle doit toujours attendre ce liquide blanc. Il y a la deuxième sorte de femme qui ne voit pas le liquide blanc et qui ne l'a pas et qui ne l'a jamais eu. Celle-là, comment qu'elle fait pour voir si elle est pure et si elle s'est purifiée? Elle se base seulement sur quand elle sait que khlas, c'est sec. En arabe on dit djoufouf. Je ne crois pas qu'en français on puisse dire ici la sécheresse. La sécheresse, c'est y a pas de pluie, etc. Mais quand c'est sec, khlas, il n'y a rien, celle-là elle est pure, mais à condition que ça soit pas une femme qui a le liquide blanc. Si c'est une femme qui a le liquide blanc, qassal bayda, elle doit se baser sur le liquide et pas sur le djoufer, pas sur le fait d'être sèche. Et l'autre qui n'a jamais eu le liquide, elle se base seulement sur le fait que c'est sec, donc elle va prendre sa douche. Ensuite, il y a autre chose très important. والقدرة والصفرة لا تكون حيضا إلا في أيام الحيض. En ce qui concerne le rouillé, le liquide rouillé, sofra, le liquide rouillé, avec un peu de jaune. Et le coudra, et le liquide qui est un peu noir, pourquoi je dis un peu noir? S'il est noir à 100%, là, c'est pas la peine de parler. S'il est noir à 100%, c'est les règles. On ne parle pas noir à 100%. Maintenant, on parle de qui est un peu, il penche vers le noir. Donc, c'est deux liquides. Celui qui penche vers le noir, yani marron foncé, et l'autre qui est rouillé, ne sont, yani, on ne dit deux. Ce sont, yani, ils font partie des règles que les jours des règles. Mais s'ils sont avant les règles ou ils viennent après les règles, ils n'ont pas de relation avec les règles. Je répète pour me faire comprendre. Le liquide noir, c'est les règles. Là, le sang noir, c'est les règles. Maintenant, le sang qui est un peu rouillé, c'est aussi les règles. Et le jaune, celui qui est rouillé, c'est ça, c'est le jaune et rouillé. C'est les règles aussi. Et l'autre qui est un peu noir, c'est aussi les règles, mais à condition que ça soit en période de règles. Maintenant, si une femme, après avoir vu par exemple le liquide blanc, là, elle s'est lavée, ou bien la deuxième sorte, celle qui a vu que là, c'est sec, elle n'a pas de liquide blanc, c'est sec, elle s'est lavée. Ensuite, elle trouve un liquide qui sort, qui est noir, un peu noir, rouillé, ou là, yani, qui penche vers le noir, ou la jaune, celle-là, elle se dit, là, je suis pure, ça n'a rien à voir avec les règles. Pourquoi? Parce que c'est sorti après le liquide blanc, ou bien c'est sorti après avoir été sec. Là, c'est sec. C'est pour ça que il n'a rien à voir. C'est pour ça que il y a le hadith de Atiyah radiallahu ta'ala anha, elle a dit kunna la na'uddu as-sufra wal-qudra ba'd at-tahri shay'an. Atiyah radiallahu ta'ala anha a dit en notre époque, yani à chaque fois que la femme se purifie, khlas, elle était pure en voyant le liquide blanc, pour celle qui a le liquide blanc, ou bien le sec, la sécheresse, ou là, pour celle qui n'a pas le liquide blanc, elle dit maintenant si après il y a le noir hada, ou là le rouillé, ou là le jaune hada, elle disait ça n'a rien à voir avec les règles. Là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle essuie les parties intimes, elle fait le wudu et elle fait la salat, yani, pour le liquide hada. Pourquoi? Classe, parce qu'elle s'est lavée auparavant, elle était purifiée. Donc ça c'est après les règles. Maintenant, si c'est avant les règles, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est avant les règles, on regarde. Si par exemple, je donne un exemple. Par exemple, la femme sait que ce mois-ci, ses règles, c'est par exemple, le menstrue, par exemple, c'est disons le dixième jour, par exemple. Et le cinquième jour, ou là, le premier jour du mois, elle a vu un liquide, yani, qui est marron, ou là, elle a rouillé, ou là, ce qu'on appelle Kudra ou Sofra. Ça, elle doit dire, ce n'est pas les règles. Pourquoi? Parce que pour compter ces deux sangs, pour dire deux, que ce sont les règles, il faut qu'ils soient dans les règles. Pas avant, pas après. S'ils viennent avant les règles, ce ne sont pas les règles. S'ils viennent après les règles, après la purification, ce ne sont pas les règles. Sauf dans un cas, un seul cas. Si ce sang, qui est marron, comme je viens de dire, ou bien jaune, si ce sang vient coller, attaché avec les règles. Par exemple, elle a l'habitude le dixième jour, et voilà le huitième jour, elle a vu le sang rouge, le sang jaune qui est presque noir, elle rouillé, elle l'a vu, ensuite il s'est pas arrêté, ensuite elle a commencé à avoir des contractions ou là, des maux au dos, ensuite deux jours après elle a eu des règles. Donc on va compter les deux jours à dos des règles aussi. Pourquoi? Parce qu'il est les deux le sang qui est sorti, il est sorti attaché avec les règles. Il n'y a pas une coupure. Donc en ce sens et dans ce cas seulement, on dit de ce sang que yani, c'est les règles. Pourquoi? Parce qu'il est venu yani, attaché, collé avec les règles. Mais s'il vient yani, 4 ou 5 jours avant, ou là il vient après avoir terminé les règles, ce sang qui est un peu noir, ou là qui est un peu rouillé, ou là qui est un peu jaune, n'a rien à voir avec les règles. Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ensuite Inch'Allah Ta'ala, vous poserez les questions. Naam. Muddatuhu, quelle est sa durée? Ikhtalafa al-ulama fi aqallihi wa aktarihi. Les ulama ont divergé sur ce point. Moi, je donne seulement yani, le plus juste pour l'arjah. Je donne le plus juste et je donne l'arjah. C'est que il n'y a pas de dalil pour dire quel est le moins. Yani, il n'y a pas un hadith qui dit le moindre c'est 3 jours, c'est 4 jours, c'est 5 jours, le plus c'est 15 jours, c'est 8 jours. Il n'y a pas de hadith qui montre comme ça et qui sont clairs en ce sens. Mais la plupart des ulama disent que le maximum c'est 15 jours. Quand une femme a les menstrues, 1 jour, 2 jours, 8 jours, 10 jours, par exemple d'habitude elle a 7 jours. Maintenant 8 jours, خلاص, 8 jours. 9 jours, نعم, 9 jours. Tant qu'il y a le sang, on est en menstrues. Ça c'est une règle, يسألوك عن المحيط قل هو أذى يعني tant que l'أذى, tant que le sang existe, le sang avec sa couleur, avec son odeur, avec les 4 signes que je vais donner tout à l'heure, 4 signes qui montrent que c'est le sang des règles, tant que le sang existe, je suis en règle. Pourquoi? Parce que le sang existe, même si d'habitude c'est seulement 6 jours, mais aujourd'hui 7 jours, c'est 8 jours, c'est 9 jours, c'est 10 jours, naam, c'est toujours les règles. Mais attention, il ne doit pas dépasser seulement 15 jours. Si maintenant, 15 jours, ça ne s'est pas arrêté, le 16e jour, je me dis, khlas, ce n'est plus les règles, même si le sang n'a pas changé. Pourquoi ? Ça devient ce qu'on appelle l'hémorragie. Il n'y a pas plus de 15 jours. Mais, tant que le sang existe et que c'est moins de 15 jours, on doit toujours compter que c'est les règles. Pourquoi ? Parce que les règles, des fois yani, elles viennent en leur moment, des fois pas en leur moment, des fois elles se coupent, des fois. Et là je voudrais dire aussi pour ne pas oublier que quand une femme par exemple aujourd'hui, supposons elle a eu les règles aujourd'hui, classe, c'est le sang noir avec l'odeur, bon, le sang le plus très connu chez les femmes. Maintenant ça fait maintenant une demi-journée qu'elle a le sang, ou une journée, ensuite il se coupe. Un, deux jours, il n'y a rien. Ensuite, le troisième jour, il revient. Est-ce que pendant les deux jours où elle n'avait rien, on va compter qu'elle était yani, en menstrue ou bien elle n'était pas en menstrue? Si on va dire qu'elle était en menstrue alors qu'elle n'avait pas de sang, on doit dire alors elle ne fait pas la prière et elle ne jeûne pas. Et si on dit non, on doit compter comme quoi elle était en menstrue, donc, c'est le contraire. Si on dit qu'elle n'est pas en menstrue, puisqu'il n'y a pas de sang, donc elle doit faire la prière. Doit se laver, faire la prière et faire le jeûne. Et si on dit le contraire, malgré qu'il n'y a pas de sang, on va dire qu'elle est en menstrue, donc en ce cas, elle ne fait ni la prière ni le jeûne. Et le plus juste, le vrai, inshallah ta'ala, que les ulama ont dit, est divergé. Cheikh Ibn Uthaymeen, quand je fais celui-là, le deuxième, de dire quoi? De dire qu'elle est en menstrue. Ça veut dire qu'une femme, si les menstrues commencent, et elle a les délits, les vrais délits, que ce sont les menstrues, ensuite, même s'il y a coupure, pendant le jour ou le deuxième jour ou là où il y a coupure, il n'y a pas de sang, elle doit se considérer comme étant menstruée. Et maintenant, l'ibra, c'est pas seulement le sang, mais c'est la période. C'est pas seulement le sang qui compte. La période aussi, la période a un rôle. Tant que je suis dans ma période de menstruée et que j'ai vu, yani, le premier sang, je l'ai vu, il est sorti, etc., je l'ai reconnu, maintenant je suis en menstruée, même si j'ai pas le sang. Je suis ça, c'est très important. Beaucoup de femmes, elles demandent maintenant, il s'est coupé, comment je fais? Je fais la prière, j'arrête, est-ce qu'elles font elle va prendre la douche deux fois par jour, etc. Donc, c'est ça, Inch'Allah Ta'ala, le plus juste. Ensuite, il y a autre chose. Mourad, il a dit ici, وَيُذْكَرْ عَنْ عَلِي عَنْ شُرِحْ إِنَّ مْرَأَةً مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهَا حاضت ثلاثا في شهر فصدقت. يعني une femme au temps de Ali رضي الله تعالى عنه, une femme يعني qu'on ne démentait pas, يعني une femme يعني متدينة religieuse, etc., qui ne mentait jamais. Elle a dit à Ali, Ali l'a cru. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit en un mois j'ai eu trois fois les monstres. Naam, en un mois j'ai eu trois fois les monstres. Naam, ça existe les monstres à nous. Yani, des fois ça se dérègle, des fois ça vient yani, deux fois, trois fois par mois, des fois ça se coupe, ça revient, etc. Donc c'est pas étonnant qu'une femme ait des menstrues deux fois par mois ou l'acheta trois fois par mois. Et le minimum, c'est un jour et une nuit. Il n'y a pas les mensuites à une heure. Le minimum, c'est un jour et une nuit. C'est pour ça que là, je voudrais dire quelque chose parce que j'ai pas beaucoup, il reste pas beaucoup de choses à dire. Non. C'est pour ça que, par exemple, une femme qui est divorcée, ou là, une femme, quand le mari est mort, par exemple, une femme veuve, en principe, personne n'a le droit de la marier sans lui demander quelle est la dernière fois où tu as eu les menstrues. Non, c'est interdit. Pourquoi? Et maintenant, bien sûr, les gens s'en foutent. Tu vas chez le machin, je sais comment ça s'appelle là, tu signes les papiers, là tu es marié, ils s'en foutent. Normalement, il n'a pas le droit, mais il demande à la femme, yani, quelle est la dernière fois où tu as eu les menstrues. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est divorcée, ou là une femme dont le mari est mort, il faut qu'elle ait les menstrues. Si elle les a pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est enceinte. C'est pour ça que Allah dit, elles doivent pas cacher ce que Allah a créé dans leur ventre. A créé dans leur ventre, c'est pas le bébé, c'est les menstrues, comme ça disent les ulama. La femme ne doit pas cacher qu'elle a les menstrues ou bien qu'elle les a pas. Parce que s'il va la marier comme ça, peut-être qu'elle est enceinte. Une femme qui vient de divorcer, et maintenant, elle va se marier sans attendre, sans être sûre qu'elle n'a plus de, qu'elle a commencé à avoir ses menstrues. Peut-être que, yani, ça va être grave. Pourquoi? Parce que il va y avoir le mélange des deux eaux. Le mélange des deux eaux. Moi, j'ai entendu une fois, j'étais à la Mecque, j'ai entendu un alim là-bas, un alim, il a dit qu'une femme, une fois, il a dit, ça s'est passé à la Mecque, il a dit, lui, le alim a dit, yani, mes ancêtres, je sais pas, lui ont raconté. Parce que Hadès, c'était un qadi, un grand juge. Il a dit une fois, une femme a prouvé que sa grossesse avait duré 8 années. Naam. Une femme, le bébé, ou la grossesse a commencé petit à petit, elle est restée 8 années. 8 années, c'est la 8e ou la 9e année, elle a accouché. Donc, cette femme, si elle était allée chez n'importe qui, il l'aurait mariée. Il l'aurait mariée. Il lui aurait dit, ça fait combien de temps, par exemple, que tu es divorcée? Elle dit, par exemple, ça fait 7 ans, 7 ans, classe, on va la marier. Mais non, il faut lui demander, quelle est la dernière fois que tu as eu les règles? Elle va dire, cette femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Je n'ai pas eu les règles, ça fait 7 ans. 7 ans. Donc, il y a beaucoup de chances qu'elle soit quoi? Qu'elle soit enceinte. C'est pour ça qu'une femme, quand elle n'a plus les règles, c'est l'une des deux choses. Ou bien elle sait pourquoi, ou bien elle sait pas. Si elle sait pourquoi, elle sait pourquoi, ou bien elle sait que les règles ne vont plus revenir. Par exemple, elle a fait une opération à l'intérieur de cette partie intime, une opération pour que elle n'ait plus d'enfants. Donc celle-là ne va plus avoir de règles. Donc ça c'est clair. Ou bien elle ne sait pas pourquoi. Elle dit je n'ai plus les règles. Et je ne sais pas pourquoi. Celle qui ne sait pas pourquoi, elle doit attendre au moins une année. 9 mois à cause de la grossesse et 3 mois à cause de la rida, si elle était déjà mariée. Parce qu'une femme, quand elle n'a plus les seins, je disais, ou bien elle sait pourquoi, elle n'a plus les règles, ou bien elle sait pourquoi, ou bien elle ne sait pas. Si elle sait pourquoi, ou bien ça ne va plus revenir. Celle-là, elle a la idda de 3 mois, c'est tout. Ou bien, elle sait que ça va revenir, elle attend que les règles reviennent. Ou bien, elle ne sait pas pourquoi, elle dit, je ne sais pas pourquoi les règles sont parties. Celle-là, elle doit rester au moins une année. Une année, 9 mois pour la grossesse et 3 mois pour la idda. Maintenant, je voulais dire que le sang des menstrues, il a 4 signes. Le premier signe, il est noir. Le second, il a une odeur. Le troisième signe, il ne se coagule pas. L'autre sang, le sang naturel, il se coagule. C'est le troisième signe. Et le quatrième signe, il est épais. Non, il est épais. n'est pas mince comme l'autre. Tandis que le sang de l'hémorragie, il n'est pas noir, il est rouge, il n'a pas d'odeur, il se coagule et il est mince. Voilà les quatre signes avec lesquels une femme peut savoir si ce sont, yani, c'est les règles ou bien ce ne sont pas les règles. Maintenant, quand une femme commence pour la première fois, par exemple, à voir les règles, ensuite elle ne sait pas si ce sont les règles, ce ne sont pas les règles, les nouvelles, etc. Comment qu'elle fait? Les ulama disent, premièrement, on voit si elle a une habitude. On voit si elle a une habitude. Si elle a une habitude, on lui dit, tu te bases sur l'habitude. Toi, d'habitude, tu avais chaque fois 6 jours. Donc, yani, marche avec les 6 jours. Chaque mois, tu attends la période où normalement tu avais des règles et tu prends six jours, tu fais pas la prière et tu jeûnes pas aussi, 6 jours. Maintenant, si elle n'avait pas de, elle était déréglée, elle n'a pas, yani, un moment précis, des fois c'est à la fin du mois, des fois c'est au début, des fois c'est, qu'est-ce qu'elle fait? On voit si elle peut reconnaître, si elle peut reconnaître le sang des menstrues de l'autre sang avec les quatre signes. Maintenant, si c'est tout mélangé, elle ne peut pas reconnaître, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche avec l'habitude de l'une des femmes de sa famille. Elle demande l'habitude de sa mère et elle marche avec l'habitude de sa mère, sinon l'habitude de l'une de ses sœurs. C'est comme ça, disent les ulama, pour celle qui a ce qu'on appelle l'hémorragie et elle ne sait plus si c'est le sang des menstrues ou bien celui de l'hémorragie. Ensuite, c'est les logis. Je préfère m'arrêter ici. Ensuite, bon, je termine les logis parce qu'il y a seulement une page. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Qu'est-ce qui est permis à celle qui a les menstrues de faire? Est-ce qu'elle lit le Coran? Est-ce qu'elle ne lit pas? Est-ce que si en plein jour de Ramadan elle a les menstrues, est-ce qu'elle termine la journée? Est-ce qu'elle mange, etc.? Bon, hémorragie. C'est métrorragie ou vinténiante. Non, vinténiante. Enfin, l'hémorragie, ça peut être une hémorragie du nez. Mais métrorragie ou bien vinténiante, je crois que c'est spécialement pour dont on est en train de parler. Allah subhanahu wa ta'ala alam. En ce qui concerne les logis, il faut savoir que c'est un sang qui sort de la femme. À cause de quoi? À cause de l'accouchement. Pourquoi on a dit à cause de l'accouchement? En ce qui concerne la femme qui est enceinte, c'est 40 jours. Parce que hadith Umm Salama radiallahu ta'ala anhu, كانت المرأة من نساء النبي, elle dit, autrefois l'une des femmes du prophète, ou bien la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle restait 40 jours. تقعد في النفاس 40 ليلة, 40 nuits. لا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس. Donc elle a dit, hadith sahih bien sûr, elle a dit que la femme du prophète restait 40 jours sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise il faut rattraper la salat. Ça veut dire que après le 40e jour, il lui disait il faut mourir la femme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas à ses femmes pendant 40 jours, il ne disait aucune femme va rattraper la salat. Mais si elle dépasse le 40e jour, il disait à ses femmes qu'elles devaient se laver. Donc une femme, après le 40e jour, ce n'est plus les logis, mais c'est ce qu'on appelle une vinténiante. On appelle la métrorragie ou vinténiante. Là, ça s'appelle istihada. On va le voir, inshallah ta'ala. Donc celle-là, elle se lave, prend la douche et elle fait la prière. Certains ulama, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, ont dit, yani, on peut aller jusqu'à 60 jours. On peut aller jusqu'à 60 jours. Ça, c'est un deuxième avis. Mais je crois que l'avis le plus sûr, celui de Cheikh Al-Albani, c'est basé sur le hadith. Sur ce hadith, qu'on ne dépasse pas 40 jours. On ne dépasse pas 40 jours. Sinon, là, c'est une maladie. Yani, elle a la vinténiante et ce n'est pas éloché. Autre chose, est-ce que. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose d'éloché? C'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne le nifas, c'est qu'on ne dépasse pas les 40 jours. Et après, Inch'Allah, dans le prochain dars, on va parler de la 20e et là on va parler d'istihada. Ensuite on va parler tout ce qui est permis à la femme de faire quand elle a yani les menstrues ou bien les louchis ou bien l'istihada et ce qui n'est pas permis inshallah ta'ala. هذا ما أردت أن أقول إن أصبتك من الله عز وجل أخطأتك من نفسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre inshallah pour les questions dans 5 à 10 minutes inshallah. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Salam alaykoum wa rahmatoullah wa barakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Salatu wa salamu ala rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. J'espère inshallah ta'ala que les premières questions au moins auront rapport avec quoi? Avec le DAS. Vous savez, surtout que le DAS est un peu yani, compliqué. Donc je donne la parole à Om Sakina Tassafadal bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Om Sakina dit salamu alaikum. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. J'espère que vous et votre famille allez bien inchallah. Barakallahu fik, tout le monde va bien alhamdoulillah. Je voulais juste vous préciser que ma question est assez longue car il y a beaucoup de choses détaillées pour que vous ayez le plus de renseignements pour essayer d'y donner une réponse des plus justes inchallah. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Naam. Ta question est longue, si elle est longue, tu peux me l'envoyer inchallah les mails. Tu peux me l'envoyer inchallah à des mails et je te répondrai par écrit. Allah subhanahu wa ta'ala Adam, si tu veux la couper maintenant, tu la coupes. Si tu veux la couper, tu la coupes. Si tu veux, inshallah ta'ala, tu l'envoies par email. Comme tu veux, inshallah subhanahu wa ta'ala. Mais dis-moi maintenant ce que tu vas faire. Afin que je sache si je donne yani le micro à Jum'a. Je veux bien la poser maintenant. Alors coupe-la. On t'attend, inshallah ta'ala. Si la question Naam, si tu as terminé, écris moi numéro 1. Naam, la question comme tu l'as dit est assez longue, donc je dois inshallah ta'ala relire donc. Une sœur utilise le stérilet comme une construction depuis la pause. Les morceaux sont complètement dérivés. Elle remarque toutes les deux semaines. Premièrement, pour le stérilet alors, il est interdit que ce soit un homme qui pose le stérilet à une femme. Il est interdit que ce soit un homme qui pose le stérilet à une femme. Ce sont complètement déréglés. Elle remarque toutes les deux semaines. C'est-à-dire tous les 15 jours, toutes les deux semaines, depuis 4 ou 5. Pour chacune des signes à l'enfer de la vie, c'est-à-dire couleur au bas du bras, puisque sont et mêleront pour les deux sexes. On doit-elle arrêter de prier et jeûner seulement pendant son cycle où il y a beaucoup de sang et continuer de prier et jeûner pendant celui où le sang est moindre? La sœur précise que le cycle où il y a beaucoup de sang est plus long que celui qu'on a peur. La sœur est dans une vraie confusion sur ses menstrues jusqu'à présent, elle a arrêté de prier. Bon, après, si on ne va pas faire des choses, on peut se tomber, on peut compris. Et que faire si ce n'est pas ce mot? Le djawab, ma'alish, djawab, bi'inna subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est pour ça que certains, yani, les ulama, yani, ne préconise pas beaucoup de, par exemple la pilule à la femme quand elle sait que bien sûr si elle va yani, elle lui faire mal, elle va tomber malade, etc., ça devient haram ici la pilule. Et dans l'autre cas, pour ne pas la dérégler, parce que des fois la pilule yani, elle fait beaucoup de machakil en ce qui concerne les menstrues. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure qu'une femme, il est possible qu'une femme, d'ailleurs j'ai donné le dalil, il est possible qu'une femme ait les menstrues 3 fois par mois. Il est possible qu'elle ait les menstrues 3 fois par mois. Pourquoi? Parce que l'Azhar, quand il a dit dans le Coran, قُلْ هُوَ أَذَا أَلُونْكَ عَمَّا حِدْهُ قُلْ هُوَ أَذَا شِخْمِرُ تِمِنْ أَذِي tant que le sang existe et on le connaît, comme a dit ici la sœur, avec la couleur, etc., c'est des monstres. C'est des monstres. Sauf s'il dépasse les 15 jours et années consécutifs. C'est pour ça que je dis moi à cette sœur, dès que le premier cycle commence, elle voit que c'est le sang, yani elle l'a reconnu, etc. Surtout s'il est suivi, yani, ou l'a précédé par des douleurs, etc. Ensuite, il y a le sang qu'elle a reconnu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je suis en plein menstrue. Je suis en plein menstrue. Ensuite, elle se dit, c'est toujours les menstrues tant qu'il y a ce sang. Pourvu seulement que ça ne dépasse pas 15 jours. Si ce sang va dépasser 15 jours, elle doit commencer, hein, elle doit se laver et faire la prière. Et elle ne dit pas, yani, peut-être c'est encore les menstrues. Parce que les menstrues ne doivent pas dépasser 15 jours. S'ils dépassent 15 jours, certains disent 16, yani la moitié du mois, ça devient automatiquement la vingt-cinquième et l'istihada, et ce ne sont plus des menstrues. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, si la femme a des, dès qu'elle voit le premier cycle là, elle s'arrête. Ensuite, elle s'arrête de prier, etc. Ensuite, elle ne se dit pas, dès qu'il y a plus de 1 ou 2 jours, elle se dit, je suis pure. Elle n'est pas pure tant qu'elle ne voit pas le liquide blanc. Le liquide blanc, comme je disais tout à l'heure, qassatul bayda. Sauf si elle est saine, elle est du genre qui n'a pas le liquide blanc. Dans ce cas, s'il y a du feuf, il y a un ikhlas, c'est sec, elle commence à prier, etc. Si il y a ce n'est pas sec, il reste toujours quelque chose, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Il ne faut pas qu'elle commence à faire la prière jusqu'à ce que ça soit vraiment sec, ou bien il faut qu'elle voit le liquide blanc. Si une femme a l'habitude de voir le liquide blanc, elle ne le voit pas, elle n'est pas pure. C'est pour ça qu'elle doit faire mettre dans sa tête que jamais elle ne doit dépasser 15 jours avec ce sang. Elle ne doit jamais dépasser 15 jours. Mais si jamais, par exemple, elle a eu par exemple ses règles, par exemple ça a duré 10, 12, 13 jours, ensuite ça s'est arrêté. Elle a vu le liquide blanc, alhamdoulilah, elle a pris la douche, ensuite après 3 ou 4 jours, il est revenu, le sang il est revenu, lui-même avec sa couleur, son odeur, et ensuite il y a eu un deuxième cycle. Ça c'est possible. Naam, elle va, c'est le genre qui a 2 fois par mois des menstrues. Ça peut être pendant toute sa vie, ou ça peut arriver 1 fois ou 2 fois dans sa vie. Quant au jour où elle n'a pas fait la prière, si elle n'était pas en menstrue, elle croyait qu'elle était en menstrue, elle doit les rattraper. Chaque femme qui, lorsqu'elle croit, elle se dit peut-être que c'est des menstrues, ensuite elle a des délits que ce n'était pas des menstrues, cette femme, en général, il est recommandé, seulement recommandé, de rattraper les jours, mais il n'est pas obligé, elle n'est pas obligée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme est venue lui dire ustahad wa kada kada, il lui a pas dit de rattraper. C'est ça qu'a dit Sheikh Ibn Rajim. Il l'a dit, elle ne savait pas, donc elle ne rattrape pas. Sauf il a dit, si elle veut elle-même, ahwat, yani, pour être plus yani, ahwat, yani, prudent, comment on dit. Mais si elle ne le fait pas, elle n'est pas obligée. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je ne sais pas si c'était la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, réécris-moi hadi ou je verrai encore sur email. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jum'a tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wa salam ala ashraf mursalin. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que les pertes blanches abondantes de la femme annulent les ablutions? Si oui, existe-t-il un délit? Tout ce qui sort, c'est ça le délit, c'est la règle. Tout ce qui sort de la femme, yani, tout ce qui sort de ses parties intimes, et même l'homme, c'est quelque chose qui annule les wudous. C'est pour ça que le plus juste, ou l'arjah, inshallah ta'ala, que les pertes ne sont pas souillées, mais qu'elles annulent le wudu. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, al-Rahmatullah. Il faut bien faire la différence entre les deux. Les pertes, même si elles sont abondantes, les pertes blanches qui sortent de la femme, de l'endroit d'où sort le bébé, elles annulent les ablutions, mais elles ne sont pas souillées. mais elles ne sont pas souillées. Ça veut dire que elle peut ne pas les laver, mais elle doit refaire le wudu. Pourquoi? Parce qu'ils ont, elles ont annulé les ablutions. Se basant sur la règle, ma kharaja min sabilayn yanqud al-wudu. Que ce qui sort des deux parties annule le wudu. والله سبحانه وتعالى أعلم. إبراهيم تفضل. أم خزيمة تفضلي. أم خزيمة تفضل. السلام عليكم. Est-il possible d'avoir une paire de manches uniquement composées de son marron et peu abondant? Deuxièmement, à la fin des règles, il ne reste pratiquement plus de présence de sang. Mais le dit qu'il vont tarder à venir et que le dit ne pas faire ma salade. Est-ce qu'au raison, barakallahu fikoum. La première question, est-il possible d'avoir une période de menstrue uniquement composée de sang marron et peu abondant? Tout le monde sait que le sang des menstrues n'est pas marron, mais il est noir. Et il a une couleur noire, il a une odeur, il est gras, il n'est pas mince et il ne se coagule pas. Donc il a les quatre signes. C'est pour ça que si une femme voit le sang de couleur marron, elle regarde quoi? Elle regarde est-ce qu'elle a les contractions et les maux, etc. Ça veut dire que c'est le début. Et s'il y a seulement le sang marron, ni contraction ni rien, ensuite elle attend 3 et 4 jours, ensuite elle a des menstrues, ça veut dire que ce sang n'était rien. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le Qudra ou Sofra. C'est pour ça que les vrais menstrues, c'est quand elle a le sang noir. Sauf si dans un cas, c'est très rare, dans un cas, ou que c'est yani, elle n'a jamais eu le sang noir dans sa vie. Son sang noir, c'est un sang marron. Elle n'a jamais eu le sang noir. Si c'est dans la période et qu'elle a des signes, mais que le sang reste marron. Non, si c'est dans la période et que le sang reste marron, elle est toujours en période menstrue. Elle est toujours en période menstrue pourvu que elle ne dépasse pas les 15 jours. Elle est toujours en période de menstrue pourvu qu'elle ne dépasse pas les 15 jours. C'est pour ça que ça a rapport avec ta deuxième question. Quand tu as dit à la fin des règles, il ne reste pratiquement plus de présence de sang, mais le liquide blanc tarde à venir. Ça a un peu rapport. Maintenant, quand il n'y a plus de présence de sang et que le liquide blanc tarde à venir, tu ne dois pas faire la prière ni te culpabiliser. Mais tu dois dire que je dis, comme a dit le prophète Hassan et ses femmes, je dois attendre jusqu'à ce que je vois le liquide blanc comme l'argent. Tu dois attendre jusqu'à ce que tu vois le liquide. Comme a dit Aïcha, là, c'est à Adjalna. Il ne faut pas vous précipiter, mais il faut attendre que le liquide blanc sorte pour la femme qui a le liquide blanc. Celle qui n'a pas le liquide blanc, c'est autre chose. Dès que c'est sec, elle commence à, yani, elle se lave. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Tfadl l'adhi ba'dah. L'adhi ba'dah. Ibrahim, si tu es là, inshallah ta'ala, naam. Tu m'aides en enlevant le point rouge auquel je donne la question et en mettant un point rouge auquel j'ai répondu. Souleyman a dit, salamu alaykum, wa alaykum salam, inshallah. Concernant la femme qui a des cartes blanches en abondance, elle doit se purifier avant chaque prière et si elle sent que ça coule pendant qu'elle est en prière ou qu'elle lit le Coran, que doit-elle faire? Naam, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. J'avais dit, je dis et je dirai, les pertes blanches annulent le wudu, mais ce n'est pas de la souillure. Les pertes blanches annulent le wudu et ce n'est pas de la souillure. Les pertes blanches n'annulent pas le ghusl. On ne doit pas faire le ghusl comme la janaba. Non, on doit faire seulement le wudu pour la salat. Maintenant, une femme qui a beaucoup qui a des pertes blanches qui coulent d'abondance, avant de faire la prière, elle attend le moment où elle sait qu'elle va rentrer dans la prière, dans 2 minutes, elle va faire la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave ses vêtements intimes. Ensuite, elle met quelque chose. Elle met, par exemple, du coton ou quelque chose dans les vêtements intimes. Et elle fait la prière. Même si, en faisant la prière, il y a des pertes qui coulent, qui sortent, elle continue sa prière. Sauf dans un seul cas, où elle ne continue pas la prière, si elle n'a pas des pertes, elle vient seulement de temps en temps, une fois par mois ou là. Là, non, elle retient la prière. Mais si elle a toujours les pertes, elle ne s'arrête pas. 4, 5 fois, 6 fois par jour, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Juste avant d'entrer dans la prière, quand elle entend l'Evan, elle lave ses parties intimes, elle lave ses vêtements intimes à l'intérieur. Ensuite, elle met un peu de coton, par exemple, une serviette, c'est pas ce que fait la femme. Ensuite, elle fait les ablutions et elle rentre dans la prière. Même si ça coule pendant la prière, ça n'a rien à voir. Pour le Coran, c'est la même chose. Avant, elle fait les ablutions. Et maintenant, si elle lit le Coran et les pertes coulent, ça n'a rien à voir avec le Coran. Parce que si ça n'a rien à voir avec la salat, c'est encore mieux que ça n'a rien à voir avec le Coran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal, celui qui vient après, le seul qui vient après. Kiki barakallah, Souleyman. Naam. Est-ce que vous pouvez expliquer pour la femme qui accouche par césarienne ou minfadlikum? Naam. Pour la femme qui accouche par césarienne, c'est-à-dire on lui fait sortir l'enfant du ventre, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, tant qu'elle n'a pas de sang, on ne peut pas dire qu'elle a les logis. Ça veut dire que elle lave, même si elle a un peu de sang, elle lave le sang et elle fait la prière. Il a dit ce sang, c'est un sang de 20 saignantes. Il a dit c'est pas un sang de logis. Le sang de logis, c'est le sang qui sort lorsque le bébé sort de l'endroit d'où la femme accouche. Lorsque la femme accouche, il y a un bébé qui sort, il y a le sang qui coule, etc. Ça s'appelle le sang des logis. Elle ne peut pas faire la prière jusqu'à ce que ça devient sec. Mais maintenant, si on l'a enlevé du ventre, il a dit s'il y a un sang qui coule, c'est le sang qui ça s'appelle la veine saignante, d'un fasad. Et ce n'est pas le sang des logis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Au suivant, inshallah. تفضل عبد القادر 691 تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. Je vous aime en Allah. أحبك الذي أحببتني فيه يا أخانا عبد القادر بارك الله فيك. Cheikh, voilà ma question. L'homme peut-il avoir des rapports sexuels avec sa femme une fois que les règles se sont arrêtées mais que le liquide blanc n'est pas encore apparu? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Tant que le liquide blanc n'est pas encore apparu, ça veut dire qu'elle n'est pas encore pure. Ça veut dire que si elle n'est pas encore pure, ça veut dire qu'on ne doit pas la toucher. On ne doit pas la toucher dans cette partie. Ça veut dire qu'on doit attendre jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Elle ne sera purifiée qu'après qu'on boit le liquide blanc. Pourquoi elle doit attendre le liquide blanc, comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha? Pourquoi elle dit qu'il faut qu'elle attende le liquide? Parce que tant qu'il n'y a pas le liquide, il est possible que le sang reprenne de nouveau. Parce qu'il n'y a pas le liquide. Alors le sang, il est possible, maintenant c'est sec, il n'y a rien, ensuite demain il y a le sang. Donc c'est pour ça qu'on attend le liquide blanc. Si le liquide blanc sort, même s'il y a le sang après, ça ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu le liquide blanc. Donc voilà la réponse, Inch'Allah ta'ala. Pour 93, ça fait mal. Un frère demande, salam alaykoum ya shaykh, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère demande, est-il permis de donner le prénom Jannah à sa fille? Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière. Amin ya rabbal alamin. Je crois, Inch'Allah, je dis Inch'Allah, qu'il est possible, je crois, Je dis pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a un grand, grand, grand savant en islam qu'on appelait le Jinnah. C'est pas son vrai prénom, mais on l'appelait comme ça, on lui disait le Jinnah. Très, très connu, je crois qu'il dit Madhab Shafi'i, je crois. Le Jinnah. Donc les grands ulamas, ils l'appelaient. Ils disaient de lui Jinnah. Je crois que si c'était pas permis, il l'aurait pas fait. Quelqu'un va demander pourquoi on l'appelait le Jinnah. La réponse est très simple. Il disait que comme dans la Jannah, il y a tout ce que tu veux, hein, il y a dans la Jannah. Même une femme qui veut accoucher dans la Jannah, c'est possible, il y a le bébé, comme dans le hadith sahih. Donc, puisqu'il y a dans la Jannah tout ce qu'on veut, la compagnie Poussoukoum, ils ont dit, chez cette personne, ce Adam, il a tout ce qu'on veut. Chaque question qu'on pose, il a la réponse. Donc il a dit, on l'appelle le Jannah. Comme dans le Jannah, il y a tout ce qu'on veut manger, chez cette personne, il y a tout ce qu'on veut demander à prendre. Donc ils l'ont appelé le Jannah. Entre parenthèses, moi je dirais seulement, c'est mon avis seulement, je préfère appeler ma fille Khadija, ou bien je l'appelle Aïcha, ou bien je l'appelle Fatima, ou bien je l'appelle Hafsa. Pourquoi? Si vraiment j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime aussi appeler comme ses femmes, ou bien comme ses filles. Ruqiyya wa Zainab wa kada. Pourquoi? Parce que yani, c'est encore mieux. Tu le fais, pourquoi tu as fait cela? Parce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aimes entendre les prénoms de ces femmes dans ta maison et dans ta famille, etc. Si c'était moi, j'aurais appelé comme ça, j'aurais appelé Khadija et Hafsa au lieu d'appeler Jannah et autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement mon avis, hein. Pardon de donner mon avis. Qasi salaf, kifa haluk, touhashna kathirin, tafadzal, barakallahu fik. Qasi salaf a dit, est-ce que la bague de fiançailles en argent est autorisée pour un homme ou une femme? Et quand on rote, y a-t-il un dalil pour dire alhamdulillah, barakallahu fik? En ce qui concerne la bague de fiançailles, elle est interdite en islam. Elle est interdite, qu'elle soit en argent, qu'elle soit en or, qu'elle soit pour l'homme ou qu'elle soit pour la femme. Pourquoi? Parce que c'est une habitude de qui? Des Nasara, des chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khalifu Yahudun Nasara. Il a dit, vous ne devez pas faire confondre les Yahoud et les Nasara. Et les Nasara, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils mettent la bague, c'est l'homme qui la met dans la main de la femme, et c'est, je crois, l'inverse aussi. Ils disent que cette bague a un rapport avec le cœur. C'est-à-dire que tant que la bague est là dans ma main et la femme elle a ma bague dans sa main, ça veut dire que on va toujours s'aimer. Donc ça rentre un peu dans le shirk, car les cœurs de toutes les personnes, les créatures, les hommes, les femmes sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, de beaux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Qulub al-ibad bayna usbu'ayn min asabi'ihi. Et ils n'ont pas entre deux bagues. Nos cœurs ne sont pas entre deux bagues, mais sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait deux choses. Ça fait un peu shirk, si on va dire que c'est la bague qui va donner l'amour. Et ça fait quoi? Ça fait tu as fait comme les kuffars, comme les chrétiens. Et le prophète a dit, il ne faut pas suivre les chrétiens, il ne faut pas suivre aussi qui, il ne faut pas suivre les juifs. Mais maintenant, si quelqu'un donne une bague à sa femme, une bague yani normale, une bague en or, ou là une bague en argent, ou là une belle bague, là, c'est permis. Mais c'est pas spécialement à cause des fiançailles. Non, il la donne comme cadeau. Après le mariage, ou là avant, ou là le mohim, il lui donne une bague, c'est permis. Mais pas avec l'idée à dire la fiançaille. Deuxièmement, quand on rote, y a-t-il un dalil pour dire Alhamdulillah? Il n'y a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un roter assez fort. Il a dit, Kuffa anna jusha'ak. Arrête de roter. Ne nous fais pas entendre ton ro. Kuffa anna jusha'ak. Ensuite, il a dit, Ashaddu an-nas. شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il a dit ceux qui dans ce monde yani mangent beaucoup. Pourquoi il a roté? Parce qu'il a beaucoup mangé. Ceux qui mangent beaucoup dans cette vie, ce sont eux qui auront beaucoup faim le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de temps en temps, si l'insan il rote, il dit Alhamdulillah yani, sans le vouloir, ou là il dit Alhamdulillah yani, parce que il a dit, j'ai dit Alhamdulillah parce que Allah m'a donné cette nourriture, etc. Il rentre pas dans le bid'a, pourvu que quoi, il faut pas qu'il le dise à chaque fois. Chaque fois qu'il rote, il dit Alhamdulillah. Sinon, il rentre dans la bid'a. Il n'y a aucun dalil qui dit qu'on dit Alhamdulillah. Mais des fois, ça sort de lui-même comme ça. Un frère demande s'il peut travailler dans la police et s'il peut se raser la barbe, pas bientôt, Inch'Allah Ta'ala. S'il sait que quand il va travailler dans la police, on va lui raser la barbe, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, qu'il cherche un métier où il ne fait pas yani, ce que n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala et ce que n'aime pas son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wallahu alam. Minhaj, tafadlal. Rah minhaj. Alaykoum salam, rahmatullah. Si quelqu'un a enregistré le cours qu'il me dit en PV, Inch'Allah, je vous l'enverrai. Minhaj, salam alaykoum, barakallahu fik pour tes cours, qu'Allah te récompense. Dans le cours, vous avez dit au sujet de la femme divorcée, qui était obligée ou pas de répondre à la question, à tel moment que barakallahu fik, j'ai pas entendu la condition. La condition. Je sais pas quelle condition, Allah. J'ai dit que une femme qui était divorcée, ou là dont le mari est mort, en principe celui qui veut la marier, il demande quelle est la dernière fois où tu as eu les règles, il demande pour savoir si elle a les menstrues ou elle les a pas. Si elle les a pas, il peut pas la marier si elle les a pas, parce que la femme, pour prouver qu'elle n'est pas enceinte, elle doit avoir des menstrues. Maintenant, si elle les a pas, on doit chercher pourquoi. Si elle a fait une opération, elle a enlevé la matrice, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça bien sûr, elle ne va pas avoir les menstrues. Donc on doit savoir la cause. On ne peut pas la marier, car il y a des femmes qui restent 5-6 ans pour accoucher. 5-6 ans, yani en grossesse, mais c'est une petite grossesse. Yani une année, peut-être ça fait yani quelques grammes. Ensuite, une année, ça reste comme ça, 6-8 ans. Naam. Voilà ce que je voulais dire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muslim by night. Tafadhal. Salam alaykoum, Cheikh, barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Jazakallahu khair. J'ai deux questions. Si la femme a eu une césarienne et qu'après elle a des pertes de sang, est-ce qu'elle doit attendre que le sang s'arrête de couleur ou bien est-ce que se purifie avant chaque prière? Si une femme a une césarienne, le sang qui coule d'elle s'appelle une veine saignante. Ce n'est pas les logis. Elle doit se laver, elle lave ses parties intimes et elle fait la salade pour chaque prière. Elle fait la salade pour chaque prière, mais elle doit se purifier pour chaque prière. Chaque prière, elle lave les parties intimes et elle fait les wudous pour faire la prière. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. KM, tafadhal. Deuxièmement, la femme qui a des pertes dans son abondance et elle est obligée de mettre le coton sur ses vêtements intimes. Si elle n'en a pas à portée de main, comment fait-elle? Ce liquide sur les vêtements, doit-elle les nettoyer? Le liquide qui coule, les pertes blanches, n'est pas souillé. Laysa binajasa. Si elle peut, yani, avant de commencer, les nettoyer, c'est alhamdoulilah. Si elle peut pas, ça ne fait rien. Ce n'est pas najasa. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le wudu. L'essentiel, c'est de faire le wudu. Maintenant, moi, quand j'ai dit, elle met par exemple le coton dans ses parties intimes, c'est pour ne pas, yani, mettre au sarche, ne pas salir ses vêtements intimes. À chaque fois, au lieu de laver ses vêtements intimes, elle jette seulement le coton. Et maintenant, si elle coule en plein salat ou là, si elle coule en plein salat, yani, c'est toujours comme ça, elle peut pas les arrêter, elle continue sa salat. Celle-là, elle est malade. Elle a ce qu'on appelle selles. Donc, ce n'est pas souillé, et elle lave les vêtements avant de commencer la prière. Mais ce n'est pas souillé, mais ça enlève et ça annule les ablutions. C'est tout. Wallahu alam. KM, puis-je envoyer mes questions en PV? Envoie en PV et on donne le tour à Abu Abdel Hakim. Abu Abd al-Hakim Tafazal, le temps que KML m'écrive en PV. Bon, j'ai oublié que KML, je vais te dire que mes PV sont fermés. Tu envoies à quelqu'un qui est sur ma liste. Tu envoies à Ibrahim, s'il est là, Ibrahim, Ibrahim 113. Tu lui envoies lui, lui il m'envoie. Naam. Voilà, Ibrahim 13. Envoie lui, lui il m'envoie, Inch'Allah. Ou bien il y a Abou Anas. Naam, pause. Yani, ça ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi. Yani, tu peux dire que quelqu'un m'a dit. Si yani, tu es dans le haras. Tu dis quelqu'un demande. Tu dis quelqu'un, ce quelqu'un c'est toi. Comme a fait l'homme qui a dit dans le hadith sahih du Bukhari, il a dit au alam, il lui a dit innahu qatala mi'ata nafs. Il lui a dit il y a quelqu'un qui a tué 99 personnes. Ensuite il a dit innahu qatala mi'ata nafs. Il parlait de lui. Toi aussi tu dis quelqu'un a fait ceci, a fait cela. Tfadl, prends le micro.
Salam alaikum. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، نعرف بأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، ولم يكن الأمر موجه إلا للملائكة. إذن فلماذا عوقب إبليس بمعصيته؟ طيب. الأمر الثاني في فقه المعاملات المالية. عندي سؤال فيما يخص تبادل مثلا 20 جرام ذهب بعشر جرامات ذهب، هل يجوز التبادل مع زيادة مبلغ مالي في ذلك؟ عندي سؤال آخر، هل يجوز الشراء والبيع بالتقسيط؟ بارك الله فيكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بالمقلوب. فيما يخص البيع بالتقسيط، على حسب ما هو مدى المقصود بالبيع بالتقسيط، يختلف البيع بالتقسيط من مفهوم إلى آخر. إذا كان إنسان عنده حاجة يبيع فيها بالتقسيط، عنده طوموبيل يبيع حالك كل شهر تعطيه مليون فقط، هذا يطوله بالتقسيط، كل مرة تعطيه شوية، هذا جائز، ما في حتى مشكلة. إذا تقصد بالتقسيط شيء آخر، لازم نعرف ما هو الشيء الآخر. فيما يخص الذهب بالذهب، ما يجوش وزيد له دراهم، ما يجوش. لازم تبيع الذهب تاعك، بعدين هذا كي تبيع هذاك اللي بعته بالدراهم هذوك تشري الذهب اللي عنده، ما يجوش تبدل له وزيد له دراهم. أما الملائكة، الله عز وجل لما أمرهم أن يسجدوا، إبليس أيضا كان مطالبا بالسجود. لماذا؟ لأنه كان في مصافهم، كان يعبد الله عز وجل معهم، وبلغ درجة عالية مكنته من أن يكون مع الملائكة. إبليس هذا كان عنده واحد الإخلاص واحد كذا، حتى علّه الله عز وجل جعله مع الملائكة، ما جعلوش من الملائكة، جعلوا مع الملائكة دائما معهم في وسطهم. فلما أمر الملائكة كان لابدهم أيضا هو أيضا يسجد معهم، ولهذا لما مسجدش عاقبه. شوف العكس، لما الملائكة تجي لواحد، تجي لجماعة تاع الناس، الملائكة دو السياحين في الأرض، يشوفوا الناس يذكروا الله عز وجل، إذا صابوهم يحفوهم بالأجنحة وكذا. فمرة صابوا إنسان معهم ما عنده حتى، ما يذكرش الله، جاء عنده شغل، يعني الله عز وجل غفر له ثانيه، قال إنهم القوم لا يشقى جالسهم، على خاطر الله معهم. لما كان معهم ربي يغفر له لهذا الانسان، خاطر في وصل يذكر الله وكاع، علاش كلي راه منهم. ابليس نفس الشيء، هنا اعتبروا الله عز وجل راه مع الملائكه، لازم يسجد معهم، والله سبحانه وتعالى اعلم. نور 30 تفضل. سي تاكي لو تور ان شاء الله تعالى. ابو عبد الحكيم ان تفضل. ابو عبد الحكيم سي تو ني با لا، on donne un nour 30, hein, parce que le temps il reste pas beaucoup. Bon, nour 30, nour, t'as fait de la nour. Oum Safiya, prépare ta question, bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. J'aimerais savoir, la femme qui a ses menstrues, en cours de journée, doit-elle rattraper ses prières une fois qu'elle s'est purifiée? J'aimerais savoir, la femme qui a ses menstrues en cours de journée, doit-elle rattraper ses prières une fois qu'elle s'est purifiée? Naam, si une femme se purifie avant le Maghreb, avant Salat du Maghreb, elle doit faire le Asr. Si certains disent, elle doit faire même le Dhuhr. Donc une femme qui se purifie en pleine journée, en voici, yani, ce n'est pas encore sorti l'heure, elle doit faire la salat qui était avant. Par exemple, si elle se purifie juste avant l'Asr, elle doit faire le Dhuhr, parce que le Dhuhr et l'Asr marchent ensemble, comme le Maghrib et le Isha marchent ensemble. Si elle se purifie avant la Isha, elle fait salat al-Maghrib. Et bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymeen là a donné deux avis. L'avis où il dit elle doit faire, et le deuxième avis où il dit elle ne doit pas faire. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple. Maintenant, par exemple, je donne le contraire. Une femme est purifiée. Elle n'a pas les menstrues. Il est, par exemple, midi. Ensuite, il est 1h, elle est 13h, c'est le Dhuhr. Elle entend l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salat Allah, elle est toujours purifiée. Ensuite, après 10 minutes, elle a les menstrues. Est-ce que celle-là, elle fait le Dhuhr ou là, elle ne le fait pas? Cheikh Ibn Uthaymeen dit, de préférence, elle fait le Dhuhr. Pourquoi? Parce que elle était purifiée quand elle a entendu l'adhan, elle était pure quand elle a entendu l'adhan. Elle l'a laissé seulement, elle a dit après je vais le faire. Et Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam, a dit, elle ne fait pas le Dhuhr ici. Elle ne fait pas. Pourquoi? Parce que, quand elle a entendu le Adhan, elle n'est pas obligée de faire la salat juste après le Adhan. Elle peut retarder un peu, une demi-heure, 20 minutes. Elle a le droit de retarder. Donc, en retardant, elle n'est pas coupable. Il a dit, et c'est Allah qui lui a donné les menstrues, donc c'est pas la peine qu'elle fasse le Dhuhr. Donc ici, il y a deux avis qui diffèrent. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Vous prenez avec ce qui est plus facile, inshallah ta'ala. Oum Safiya, tafadlali.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Bintou Mohamed, prépare ta question, biznillah. Oum Safiya, si ta question est longue, il faut la couper, elle ne va pas passer. Si la femme observe à la fin de ses menstrues le kit blanc, mais accompagné de marron, peut-elle se purifier barcelophicum? Non, elle ne peut pas. Comme a dit Aïcha, il faut qu'elle voie le liquide blanc comme l'argent. Qu'elle fait le bain. Il faut que le liquide blanc soit comme de l'argent. Vous voyez l'or et l'argent, le fait le bain, c'est blanc. La même chose ici, le liquide, il ne doit pas être mélangé d'une autre couleur, de marron ou de jaune. Il faut qu'elle attende encore jusqu'à ce qu'il soit blanc comme elle fait là. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bintou Mohamed, tafadlali. Salamu alaykoum. À propos de césarien, comment on peut expliquer qu'une personne que je connais qui a pris l'accouchement sans sang coule pendant 40 jours? Comment peut-on expliquer qu'une personne que je connais qui a pris ses accouchements son sang coule pendant 40 jours? Naam, il se peut que le sang coule 20, 30, 40 jours et c'est un sang de veine saignante. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie. Hada ou al-istihada. Quand il commence à couler le sang à la veine saignante, des fois il ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'une femme qui a les menstrues, si elle dépasse 15 jours, il faut qu'elle commence la prière. Pourquoi? C'est devenu une hémorragie, ce n'est plus le sang des menstrues. Ici c'est la même chose. C'est un sang de fesed, irq, et ce n'est pas le sang des lochis, car pour que le sang soit des lochis, il faut que le bébé sorte de l'endroit naturel et non pas du ventre. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Aba'isa, tfaddal. هل ثبت شيء في أن المرأة التي تموت في نفاسها ونفاسها يعني بسبب الولادة لا حكم الشاهد؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال، بارك الله فيك وذكرتنا في شيء هام من صح. نعم، لا فام كي مور en plein accouchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une shahida. Shahid, ça veut dire elle va à la Jannah et elle est shahida plus que celui qui va rentrer normalement à la Jannah. On peut rentrer au paradis sans être shahid. Et le shahid, vous savez qu'il a un grand rang chez Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, là c'est pas la peine de vous dire que la femme qui va être shahida, c'est celle qui a eu un bébé yani shar'i, et pas celle qui a fait la zina et ensuite elle a eu un bébé, elle a couché, elle est morte. C'est là, c'est l'enfer qui l'attend. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah l'afiya. Mais on parle de celle qui a eu un bébé yani shar'i, un bébé yani halal. Si elle meurt en plein accouchement, inshallah ta'ala, c'est une shahida, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ibn Kathir 3, tafadhal. Naam, le hadith il est sahih, ba'is, le hadith sahih, mazkour fi l'ahkam al-janaïs ta' Cheikh al-Albani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barak Allah fiik, akhi fillah, ana hidduk fillah. Je vous aime en Allah et je vous remercie pour le temps que vous nous consacrez dans vos cours. Donc bismillah, j'ai une question qui n'a pas à voir avec le cours, excusez-moi cher. Donc c'est une question concernant ceux qui veulent aller faire talib al-ilm, ceux qui souhaitent aller faire étudier la science dans un pays musulman, sachant, donc ma question c'est celle-ci: est-ce qu'il est autorisé à une personne qui souhaite faire talib al-ilm, étudier la science, de partir un an dans un pays et en étant là-bas sans papier, c'est-à-dire c'est est-ce qu'il est permis de désobéir aux lois du gouverneur, c'est-à-dire aux lois du gouverneur, au gouverneur, dans le fait qu'il est sans papier pendant un an là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas un impact par rapport à ça? Donc ça c'est ma première question. Barakallahu fik, j'espère qu'elle a été claire. Je ne suis pas mal exprimé. Et la deuxième question, ça concerne une personne qui prie derrière un imam. Si l'imam prie, c'est-à-dire il dit la surat al-fatiha très très vite, exemple salat bor, il fait la prière mais il a dit très vite, à tel point qu'on n'arrive pas à dire la fatiha derrière lui, quel est le jugement des savants par rapport à celui qui prie derrière cet homme, derrière cet imam? Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Walaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la première question, mon avis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, de préférence qu'il ne parte pas dans un pays où c'est interdit. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la darar wa la dirar. Yani, ne te fais pas mal ni à toi-même ni à autrui. Mais en allant là-bas sans papier, tu risques de te trouver en prison. Et tu risques d'avoir beaucoup de problèmes si tu ne te trouves pas à la prison de Guantanamo, ou billah. On ne sait pas, tu ne sais pas ce qui va se passer. Maintenant, c'est très difficile, par exemple, même en Arabie Saoudite, c'est très difficile sans papier. Maintenant, si tu vas au Yémen ou là sans papier, tu risques de te trouver, comme je viens de dire, à Guantanamo, je ne sais pas où. Donc, de préférence, il ne faut pas y aller dans un pays où on n'a pas les papiers, parce qu'on risque d'avoir des problèmes majeurs. Et comme a dit Allah Azza wa Jal, wa la tulqi bi nafsika ila tahluka, comme disent les ulama, ça veut dire on ne se jette pas dans les problèmes, après on commence à chercher des solutions. Ça c'est mon avis en ce qui concerne à dealer et douce, sinon tu désobéis au gouverneur. Ça, sans parler de la désobéissance au gouverneur, naam, sans parler de cela, moi j'ai montré qu'il y avait aussi, yani des mafasides. Il y avait aussi beaucoup de mafasides. Ensuite, Allah Azza wa Jal ne t'a pas demandé de faire une chose que tu ne peux pas faire. Allah Azza wa Jal t'a pas demandé de la faire. Il t'a demandé de faire des choses que tu peux faire. Et aller dans un pays comme ça en noir, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé. Ensuite, je voudrais dire une chose. quand quelqu'un reste dans son pays, il n'y a pas beaucoup d'aim, il y a seulement un peu d'aim, et il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il est inshallah dans le vrai chemin, il fait des du'as, etc. Wallahi, 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 c'est pas une question de d'avoir beaucoup d'aim. Tu peux avoir un peu d'aim et rentrer au paradis, et je peux avoir beaucoup d'aim mais ne pas rentrer au paradis. C'est une question de sincérité, c'est une question de baraka. Tu as un peu d'aim, Allah Azza wa Jal te donne la baraka dans ton ilm. Ben, tu as juste un peu. Allah Azza wa Jal te donne beaucoup de baraka. Hatta tu parais quelqu'un, un grand talibain, alors que tu n'as qu'un peu de ilm. C'est une question de baraka. C'est pas question de, de lire tous les livres du monde et puis de ne pas pouvoir répondre à une petite question. Il y a des gens qui ont lu beaucoup, beaucoup de livres. Tu poses une petite question, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Il n'a pas demandé ça, il n'a pas lu les livres avec sincérité. Il les a lus pour que les gens disent de lui, il lit beaucoup, etc. Ou là pour que les gens disent de lui, c'est un alam, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand on fait la prière derrière quelqu'un qui lit très vite, des fois lui, il lit normalement, yani un peu vite, mais par rapport à nous, ça nous paraît vite. Pourquoi? Parce que lui, il se lève avant nous, il commence à lire, et nous, des fois, on fait par exemple juste istiraha, et on se lève, lui, il est à la moitié de la fatiha, et nous, on ne sait pas. Et on croit qu'il a lu vite. Dans ce cas, ce n'est pas interdit, bien sûr. Mais dans le cas où il lit, par exemple, très vite, c'est exagéré, il lit tellement vite, c'est exagéré, même dans ce cas, s'il n'y a que lui, dans la mosquée, on doit faire la prière avec lui. Et c'est lui qui veut, qui va avoir le ism. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne doit jamais faire la prière à la maison parce que quelqu'un fait une bid'a dans la mosquée. On cherche une autre mosquée où il y a quelqu'un qui ne va pas vite. S'il n'y a pas, il n'y a que celui-là, on fait derrière lui et c'est lui qui a les péchés. Donc je lis la fatiha ou pas dans ce cas. Tu lis ce que tu peux. Dans ce cas, tu lis ce que tu peux. Tu dis par exemple, Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Lui, il descend, tu descends. S'il te donne plus, tu lis plus. S'il te donne un peu, tu lis un peu. S'il te donne pas la chance, tu lis pas. Et c'est lui qui va avoir les grands péchés demain, le jour de la résurrection. Ça, bien sûr, je suis en train de te parler en ce qui concerne quand il lit. Non, je suis en train de te parler quand il lit. Quand il lit, quand il ne fait pas entendre les autres. Amma, quand il lit fort, par exemple, salat al-Maghrib, salat al-Isha, salat, voilà, à voix basse. Mais quand il lit à voix haute, c'est pas la peine que tu lises. Laisse-le lire lui seul. Innama qira'atul imam, man kana lahu imam, ta qira'atul imam qira'atun lahu. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. والله اعلم ام سهيل 39 تفضلي وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ pardon la mère de mon époux est handicapée elle ne peut pas jeûner le mois de ramadan elle doit nourrir 60 masakines car deux années elle n'a pas jeûné mais dans l'intention que ce soit pour sa mère ou faut-il que la sadaqa soit faite avec les moyens de sa mère Jazakumullah. Bon, je vais relire parce que je n'ai pas bien compris. La mère de mon époux, c'est-à-dire la belle-mère, est handicapée, elle ne peut pas jeûner le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nishfiha an qarib. Allah subhanahu wa ta'ala nishfiha wa an yu'ida laha sihhataha kama kanat. Elle doit nourrir 60 miskines. On n'a pas jeûné, yani deux mois. Question, est-ce que mon mari peut faire la sadaqa avec ses propres moyens? Mais dans l'intention que ce soit pour sa mère. Naam, j'ai compris maintenant. Et où faut-il que la sadaqa soit faite? Ou bien faut-il que ce soit avec... Naam. Quand une femme ou là, un homme a, par exemple, une fidya, comme ici, par exemple, il doit payer de l'argent parce qu'il n'a pas fait le jeûne, que ça soit la personne elle-même qu'elle fasse sortir l'argent ou que ça soit une autre personne, c'est la même chose. C'est-à-dire moi, si je n'ai pas jeûné par exemple deux mois, je dois faire manger 60 pauvres si je ne peux pas jeûner. Maintenant, que ce soit moi qui sorte l'argent, ou bien mon père, ou bien un ami, ou bien je ne sais pas qui, non. À une condition, ma soeur, quelle est la condition? Il faut qu'elle sache, il faut qu'elle sache, qu'ils lui disent, voilà, je vais faire manger 60 pauvres. Pourquoi? Pour qu'elle fasse l'intention dans son cœur. Naam, hatta tabra'a dhimmatuha. Il faut qu'elle sache. Donc il ne peut pas, par exemple, aller faire nourrir 60, ensuite il vient lui dire, voilà, j'ai fait nourrir. Il ne peut pas. Il faut qu'il lui dise d'abord, attention, Inch'Allah, je vais faire sortir à ta place. Pour qu'elle mette dans son cœur l'intention que, yani, elle a fait l'obligatoire. Naam. Maintenant, il y a la deuxième question. Et avec les moyens de sa mère, non, c'est ça la question, inshallah ta'ala. Abdel Qadir 691, tafaddal. Fiki barakallah. Salam alaikum, j'aimerais poser deux questions, je m'excuse, je ne sens pas de rapport avec le cours. La première, voilà, est-ce que le fait de manger du vinaigre où il y a de l'alcool annule la prière pendant 40 jours? Ma deuxième question, est-ce que si on vit dans un pays qu'est-ce qu'on peut pas et qu'on peut appliquer les obligations de nos régions. Salat, jeûne, barbe, etc. à son droit de multiplier. Pour la première question, on se concerne le vinaigre. Le vinaigre qui est rouge, il faut l'éviter. Le vinaigre qui est rouge, il a été prouvé qu'il est à base de vin. Le vinaigre rouge, celui qui veut utiliser le vinaigre qui est rouge, c'est vinaigre à base de vin. Ce vinaigre, on peut l'utiliser s'il devient vinaigre de lui-même. Je donne un exemple. J'ai par exemple le vin rouge que tout le monde connaît. J'ai par exemple une bouteille de vin rouge. Maintenant, je la laisse à la maison une année, deux années, trois années, quatre années. Ensuite, un jour, je regarde dans ce vinaigre, dans ce vin, je trouve qu'il est devenu vinaigre. Celui-là, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est devenu vinaigre par Allah. Mais si je prends le vin, je lui mets des produits pour qu'il devienne vinaigre, ce vinaigre est interdit. C'est pour ça que je conseille à mes frères et mes sœurs d'acheter le vinaigre à base de citron. Maintenant, si quelqu'un utilise ce vinaigre, je ne peux pas dire de lui que sa salade est annulée pendant 40 jours. Je ne peux pas dire de lui. Je peux dire peut-être qu'il a un péché, mais pas au point de dire que sa salade est annulée pendant 40 jours, parce que vinaigre base islamique, basalmique. Je ne sais pas ce que ça veut dire vinaigre basalmique. La première fois que j'entends parler de cela. Ensuite, quand on vit dans un pays kafir et qu'on ne peut pas appliquer les obligations de notre religion, salat, jeûne, barbe, etc., est-ce qu'on a le droit de vivre dans ce pays? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de vivre dans un pays où je ne peux pas ni faire la prière, ni faire le jeûne, ni... D'ailleurs, je ne vois pas comment je ne peux pas faire la prière. La prière, je la fais chez moi, par exemple. Est-ce que c'est interdit? Dis-moi, je ne peux pas la faire dans la mosquée. De même que le jeûne. Je jeûne entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu n'as pas compris la question, cher. Non, mais alors fais-moi comprendre la question. Je n'ai pas bien compris alors. Dhadr, on ne peut pas faire des obligations. Quelle obligation? On ne peut pas faire des obligations. Abdelkader 691. Laisse-moi te dire en général, dans n'importe quel pays où tu vis, tu ne peux pas faire les obligations, tu dois quitter ce pays. Tu vas dans un pays où tu peux faire les obligations. C'est pour ça qu'il est interdit de vivre dans un pays de coffre. Pourquoi? Parce que tu n'entends ni l'adhan, ni tu ne sais ce qui se passe, ni etc. C'est pour ça que chaque personne qui vit dans un pays de coffre, il faut qu'elle ait dans le cœur l'intention que Allah a l'intention de quitter ce pays un jour, inshallah ta'ala. Parce que celui qui meurt sans avoir l'intention dans le cœur, c'est un peu grave pour lui. Et celui qui se dit, par exemple, je vais par exemple juste amasser un peu d'argent et partir, ou là, yani hada au moins, yani c'est moins grave. Mais celui qui dit, khlas, je suis ici, mashallah, je vais rester toute ma vie ici, dans ce pays de Kof, celui-là, bien sûr, il a fait un grand péché, et s'il meurt dans ce pays sans avoir l'intention dans le cœur, ce sera vraiment difficile pour lui. De toute façon, j'ai une cassette d'un ami qui s'appelle Abdel Ghani Ouissef, peut-être vous le connaissez, c'est un da'i, il est très connu en Algérie, où je lui ai posé yani, certaines questions. Il a parlé de la hijra, je la vous ferai entendre très bientôt, inshallah ta'ala. Il nous a donné un conseil sur la hijra, inshallah ta'ala. L'akhl al-Albani, tafadhal, l'Albani ta'a Bouchawi, tafadhal. Salam alaikum, jazakallahu khayran, kul khayr. Ma question est l'Albani 7531. Est-ce que c'est toi l'ami? Est-ce que c'est toi l'ami? Salam alaikum, jazakallahu khayran, kul khayr. Ma question est, peut-on faire la prière de deux rak'at avec trois intentions? Niya, par exemple, sunna de wudu, sunna duha. Ah, jazakallah khairan, barakallah khairan. Naam. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas parlé dans le micro. Sunna duha et istikhara. Jazakallah khairan. Naam. On peut, naam, bouchahoui, barakallah khairan. Naam. On peut joindre avec les trois, on peut joindre avec beaucoup de niya. Par exemple, on vient de faire le wudu. Au lieu de faire moi salat wudu toute seule, hein, je peux faire par exemple duha en même temps. Je peux faire duha en même temps. Et quand je termine duha, je peux faire ce qu'on appelle yani, le dua de l'istikhara. Parce que le dua de salat istikhara n'est pas demandé spécialement pour une salat. Mais n'importe quelle salat, pourvu qu'elle ne soit pas obligatoire, tu peux faire après salat. Yani, dua al-istikhara. C'est pour ça qu'ici, on peut, inshallah ta'ala, joindre entre les trois niyas. Wallahu subhanahu wa ta'ala, alam. Il reste, inshallah, un quart d'heure et on termine. Déjà, il est ici, il est 1h15 du matin. Ayyub, t'as pas de valise, barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi shaykh. Allah vous récompense, vous écoute. Barakallahu fi. Vous ouvre mon tension et vous élève au paradis. Amin, ya rabbal alamin. Je voudrais savoir, une femme, dès qu'une femme a demandé en dot pour son mariage des sourates que son mari lui apprendrait après le mariage. Et le mari ne le fait pas, sûrement, par fainéantisme. Qu'en est-il pour le mari? Qu'est-ce qu'il en court? Naam. La femme qui a demandé yani, quelques sourates en guise de dot, premièrement, barakallahu fiha. Premièrement, barakallahu fiha. Deuxièmement, pour sortir des divergences des ulama, il est recommandé yani, qu'elle demande quelque chose de matériel, même de minime. Par exemple, qu'elle dise, tu m'achètes par exemple quelque chose de minime, par exemple une chaîne, ou là, même si elle n'est pas en or, ou là, juste une chose yani, matérielle. Mais de toute façon, la dot est valable, et le mari, s'il ne fait pas, s'il ne tient pas yani, la condition à lui, il va avoir des péchés. Voilà ce qu'il en court. Le mariage est valable et lui, il a quoi? Il a des péchés pour n'avoir pas fait, pour ne pas avoir tenu la condition. Pour ne pas avoir tenu la condition. Mais s'il lui apprend au moins quelques sourates, au moins quelques, yani, le péché sera moins grand. Plus il lui apprend, yani, plus le péché yani, diminue. Plus yani, il ne lui apprend pas, plus le péché devient plus grand. Et d'après yani, le nombre de sourates qu'elle a demandé. Donc il devra faire ce que yani, c'est pour ça que la femme, ça c'est une comme on dit fa'ida, c'est un intérêt. Une femme en islam a le droit de ne pas se permettre de ne pas s'offrir à son mari qui ne donne pas la dot. La dot, quand le mari ne la donne pas, elle n'est pas obligée de s'offrir à son mari. Elle peut ne pas accepter le rapport de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la dot. Elle aussi, si elle avait voulu, elle aurait pu ne pas s'offrir à lui jusqu'à ce qu'il lui apprenne tout cela. Dans ce cas, c'est sûr, il lui aurait appris. Mais maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, maintenant il est devenu feignant. Ça, tout le monde le sait. Allahu ta'ala alam. Ibrahim, tafadla. Fiki barakallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa shaykh. Wa hibbuka fillah. J'ai deux questions, inshallah ta'ala. Ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Tafadla. Pour une femme qui a eu une hémorragie suite à une césarienne, est-ce qu'elle doit prier directement? Naam, le sang qui coule d'elle, elle met quelque chose, du coton ou là, un vêtement ou là, n'importe quoi, elle met quelque chose, elle se lave et elle met une chose et elle fait la prière. Naam. Dans la deuxième question. Un frère musulman qui ne prie pas, a acquis une certaine somme d'argent illicitement par le bien-être illicite, drogue. Cette même personne veut arrêter ce commerce illicite pour investir cet argent dans un commerce halal. Cet argent illicite lui devient illicite après qu'il ait fait tawba ou pas. Ma'am, cet argent illicite lui devient illicite après qu'il ait fait tawba ou pas. Ma'am. Les ulamas ont divergé sur ce point. Certains ont dit, dès qu'il est devenu, et il a fait la touba, classe, il est devenu licite. Certains ont dit contre, il a dit, l'islam yajoub maqablahu, et puis il y a aussi le verset où il dit, sur le Baqara, j'ai oublié le verset où il dit que, c'est terminé, lahu masalaf, alors c'est terminé. Yani, c'est devenu licite. Et c'est ce qu'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Tandis que Cheikh Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, il a dit, cet argent reste toujours haram, et il faut qu'il le donne. Il faut qu'il le donne aux autres, sans quoi? Sans l'intention d'avoir le ajr. Parce qu'il ne peut pas avoir le ajr quand il donne quelque chose de haram. Il n'a pas de ajr. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal a aidé cette personne et qu'elle a fait la tauba et qu'elle n'est pas morte, que cette personne ne soit pas morte, surtout pour quelqu'un qui vend de la drogue. Vous savez que quelqu'un qui boit de la drogue seulement, yani qui prend de la drogue, c'est plus grave que l'alcool. Car quand il boit l'alcool, en islam, on le tue pas qu'après la quatrième fois. Tandis que celui qui prend de la drogue, la première fois, il doit mourir la première fois, pas comme l'alcool la quatrième fois. C'est montrer combien c'est grave, c'est-à-dire la drogue. Alors qu'en est-il de celui qui la vend? Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ça, c'est vraiment grave, celui qui la vend. Fa nahnu naqul alhamdulillah alladhi hadana akhana hadha. Tandis que si quelqu'un, l'argent qu'il a pris, c'est l'argent des autres et il a fait tauba, là dans ce cas, l'argent des autres reste toujours l'argent des autres. Maintenant, c'est l'argent de la drogue, c'est autre chose. Mais s'il a volé des gens ou là, il était endetté ou là, il a escroqué les gens, ensuite il a fait tauba, celui-là, il doit rendre l'argent des autres. Comme a dit Cheikh l'Islam, et en annas yentafi'una bistifa'i huquqihim wa laysa bitawbati ta'ibin. Moi, quand je prête à quelqu'un de l'argent, ensuite il ne le rend pas, il va faire le repentir. Moi, quel avantage? Je n'ai aucun avantage qu'il se repente ou là qu'il aille au paradis. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me rende mon argent. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il me rende mon argent. C'est pas qu'il fasse le repentir. Donc, si quelqu'un a pris de l'argent ou là, il doit le rendre aux gens. الله سبحانه وتعالى أعلم. Il reste 4 personnes, inshallah ta'ala. Jamel 38, tafadhal. Naam, je crois que Jamel 38, je crois qu'il n'était pas avec nous pendant le cours. Allahu a'lam. Parce qu'il a posé une question auquel j'ai répondu beaucoup. Ça ne fait rien. Je répète pour mon frère Jamel 38. Combien de jours sont déterminés pour les menstrues? Il n'y a pas quelque chose qui dit que les menstrues, c'est 6 jours, ou là c'est 15 jours, ou là c'est 4 jours. Pourquoi? Tant qu'il y a le sang noir avec l'odeur, et yani khassin, gras, et qui ne se coagule pas, ça veut dire la femme est en plein menstrue. Donc il n'y a pas 2 jours. Ça peut être 8 jours, ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 11, ça peut être 12. Seulement ça ne dépasse pas 15. Ça ne dépasse pas la moitié du mois. Et si les saignements se prolongent, et au bout de combien de temps il faut prendre la prière? Naam, voilà la réponse à la deuxième question. Si les saignements se prolongent, au bout de 15 jours, elle doit se laver et faire la prière. Au bout de 15 jours, elle doit se laver et faire la prière, Inch'Allah ta'ala, car ça devient une veine saignante et ce n'est plus les monstrueux. Ou Allah ta'ala a'lam. Abdul Ghani, tafadhal. Salamu alaikum wa rahmatullah. Heureux de vous entendre, moi aussi. J'espère que votre voyage s'est bien passé. C'est bien passé, mashallah. Ma question suivante. Une femme qui a des pertes blanches tout le temps, doit-elle refaire des ablutions à chaque fois? C'est ce qui sort du vagin. Naam. Une femme qui a des pertes blanches tout le temps, elle doit, je dis bien, elle doit à chaque salat faire des ablutions. Mais elle laisse à la dernière minute, quand elle entend le adhan, ou là, après le adhan, quand elle sent que dans 5 minutes par exemple elle va faire la prière, là qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lave les parties intimes, elle lave les vêtements intérieurs. Ce n'est pas de la souillure, mais elle lave à cause de la propreté, c'est tout. Ensuite, elle fait la prière. Maintenant, quand elle fait la prière, même si en même temps qu'elle fait la prière, il y a les pertes qui descendent, les pertes blanches, ça n'annule pas la prière. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. Elle a une hémorragie de pertes blanches. Celle-là, elle est malade. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais à condition que elle ne rentre pas dans la prière qu'après avoir fait les ablutions pour chaque prière. Premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'elle ne fasse pas les ablutions jusqu'à la dernière minute où elle va rentrer dans la prière. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibn Kathir, on revient encore vers toi. Une femme qui a perdu son mari, est-ce son beau-père est toujours son beau-père, même si elle se remarie? Une femme qui a perdu son mari, son beau-père reste toujours son beau-père, même si elle se remarie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut jamais se remarier avec son beau-père. Elle ne peut jamais se remarier, ou la se marier, pardon, avec son beau-père. Pourquoi? Car c'est un mahram. C'est un mahram. Et c'est comme quelqu'un qui a épousé une femme, ensuite sa femme est morte, ou il a divorcé avec elle. Il ne peut jamais se marier avec sa mère, avec la mère de sa femme. Jamais. Même si sa femme est morte, ou l'a divorcé. Il ne peut jamais. Par contre, il peut se marier avec sa sœur, avec la sœur de sa femme, Naam, pas avec sa mère. Peut-elle retirer son voile devant lui? C'est toujours un mahram, Naam. C'est toujours un mahram pour elle. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ibn Kathir, tafadhal, on revient une deuxième fois vers toi. Tafadhal. Ibn Kathir, d'abord, avant que tu poses toi la question, moi je voudrais te poser une petite question. Est-ce que c'est toi qui fais de temps en temps un dars dans une salle? Si c'est toi, écris-moi un. Si c'est toi, écris-moi un, je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas toi, si c'est toi, écris-moi un, sinon écris-moi zéro. Est-ce que c'est toi qui de temps en temps fais un dars dans une salle? Je ne suis pas trop, d'accord. C'est pas toi, il y a un autre bouquet. Tafadhal, je te donne le micro.
Jazakallahu khair akhi. Donc pour préciser, bismillah, effectivement j'ai une room, mais personnellement je fais pas de cours sur ma room. Barakallahu fik. Donc non, c'est pas moi qui fais des baffes. Donc jazakallah khair akhi fillah. Donc j'ai ma première question qui concerne une personne donc qui commence. Donc ma question c'est celle-ci. Une personne qui commence le jeûne avec un exemple en France, elle commence le jeûne en France. Mais elle termine son jeûne en Arabie Saoudite. Comment doit-elle suivre l'Arabie Saoudite ou doit-elle suivre le pays d'origine dans lequel elle a commencé son jeûne? Exemple en Arabie Saoudite, s'ils commencent comme cette année, ils ont commencé un jour après la France, mais ils ont jeûné, apparemment ils ont fait la Eid al-Fitr en même temps. Donc il y a un jour de décalage, doit-elle rattraper ce jour-là ou pas? Donc c'est ça ma première question, barakallahu fika khifillah. Et la deuxième question que j'ai à poser, bi-idhnillah, si tu m'autorises, c'est donc, voilà, ça concerne toujours par rapport, un peu ma question par rapport au talib al-ilm. La deuxième donc c'est, dans le cas où c'est une personne qui souhaite faire les hijras, c'est-à-dire pour sa vie, son din, c'est une nécessité, elle doit partir dans un pays musulman, mais dans ce pays musulman-là, il nécessite des papiers d'identité. Doit-elle désobéir au gouverneur dans ce cas-là? Si c'est pour le cas du hijra, c'est la même question que tout à l'heure, mais c'est pas pour le cas de Talib al-Ilm, là c'est pour le cas de l'hijra. Voilà, barakallahu fik. Et ma troisième question, elle est très courte, est-ce qu'il est permis à une personne de poser une question dont elle a la réponse dans une assemblée, dans une jama'a, dans une assise, afin de compléter le cours, ou alors de corriger celui qui donne le cours? Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Allah vous fasse miséricorde.
Akhi Ibn Kathir, barakallahu fik. Répète la troisième question. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas bien comprise. La troisième question, barakallahu fik. Ibn Kathir, j'ai dit, inshallah ta'ala, répète la troisième question, barakallahu fik. Je ne sais pas, peut-être que Ibn Kathir n'est pas avec nous. Hein. Je ne sais pas maintenant s'il n'est pas avec nous, puisqu'il ne répète pas la troisième question. Peut-être qu'il est déconnecté ou là. Je ne sais pas. Je lui donne encore quelques secondes pour voir s'il est avec nous ou s'il n'est pas avec nous. Ibn Kathir, barakallahu fik, répète la troisième question. Abraham, qu'est-ce que tu as compris toi? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il est là ou là il n'est pas là? Bon. Abou Lies, tafadal. Abou Lies, tafadal. أحب الشيخ أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه. Je connais une sœur salafia célibataire qui voyage toute seule sans mahram. Elle est en contact avec des gens tekfiri qui font l'éloge du fils et du jihad algérien. Quels conseils lui donnez-vous, les chers? Ensuite, chers, au sujet de rendre le salam durant la salat, comment le rendre? Faut-il que les doigts de la main droite soient dirigés vers la qibla et la paume parallèle au sol? Les chers, inna lillahi, les chers, inna. Si l'on frotte son sexe sur le sexe de sa femme sans faire la pénétration, doit-il faire le rousse s'il n'a pas éjaculé et s'il n'a pas mis son sexe dans celui de la femme? Jazakallahu khairan, excusez-moi de mon ignorance, même si ce n'est pas une excuse. Pour la première question, la sœur qui fait le voyage toute seule sans mahram est dans un péché. Et dans le péché, d'ailleurs, le hajj, qui est un pilier de l'islam, il ne lui est pas permis de partir sans mahram. Regardez, le pilier de l'islam, le pilier, quelqu'un qui ne fait pas le pilier, il devient kafir, s'il remplit les conditions, il sait, etc. Il n'a pas d'excuse. Alors le pilier, yani, devient nul. Pourquoi? À cause du mahram, tellement c'est grave, tellement c'est obligé, le mahram. Ensuite, il dit, elle est en contact avec des takfiris, etc., qui font l'éloge, etc. Je donne un conseil à cette sœur, à moi-même et à tout le monde, de s'éloigner au maximum des gens qui ont l'idéalité à takfir et qui ont le dogme et la aqida du takfir, parce que ce sont des gens qui vous apportent premièrement des problèmes ici dans cette vie et qui vont vous faire rentrer en enfer le jour du jugement dernier, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait des khawarij, qui sont des takfiriens, ils ont dit tous les sahabas sont des kuffars. Il a dit quoi? Kilab ou nar, ce sont les chiens de l'enfer. Donc insan, il yani, c'est pour ça que les ulama disent, si tu t'assois avec quelqu'un qui a l'habitude de faire la zina et qui a l'habitude de boire de l'alcool, c'est mieux que de t'asseoir avec quelqu'un qui est takfiri. Car celui qui fait la zina, qui boit l'alcool, ses problèmes, c'est question de shahawat. Mais de takfiri, son problème, c'est question de shubuhat. Et fitnat shubuhat est plus grave que fitnat shahawat. Ensuite, au sujet de salam durant la salat. Durant la salat, quand on rend salam, on lève le bras pour que la main droite, na'am, on tend la main de façon à ce que les doigts soient du côté, soient pointés vers la qibla. Tu as la main, les doigts pointés vers la qibla et la paume parallèle au sol. Exactement comme tu as dit, na'am. La paume parallèle au sol et les doigts vers la qibla. Parce que certains, ou là beaucoup même, se trompent quand ils disent salam dans la salat. Ils disent pas salam. Quand ils lèvent la main, ils la lèvent comme ça vers le haut, du côté de l'oreille. Hein? Elle devient, la paume devient parallèle à l'oreille, à côté de l'oreille. Ça c'est faux. Ça c'est à peu près ce que faisait Hitler. Quand il levait la main, il disait Hi Hitler. Il lève la main du côté de l'oreille. Non. Nous on lève la main et on l'attend vers la qibla, les doigts pointés vers la qibla. Inch'Allah ta'ala, tu as compris cela. En ce qui concerne la troisième question, sans faire la fin, je voudrais que tu saches que c'est un peu délicat, mais il faudrait que tu comprennes et que tout le monde comprenne cette question. C'est un peu délicat, mais yani, celui qui est marié, Inch'Allah ta'ala, peut comprendre cela. Pour qu'il y ait le rousl, la Bouddha, min al-tiqa al-khitanayn, yani khatinayn. C'est pour qu'il y ait le rousl, il faut que, yani, le membre de l'homme, plus spécialement, yani, la première partie du membre de l'homme, hein, où il a été circoncis, il faut que cette partie rentre à l'intérieur de la femme, de façon à ce que la femme a quelque chose à l'intérieur de son membre, cette chose qu'elle a doit toucher le début du membre de l'homme. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il met seulement comme ça, yani, sans faire rentrer le début, il n'a pas de rousse, Mais s'il fait juste rentrer le début, de façon à ce qu'il y ait une petite pénétration, alors, il faut le rousse. Il a tapé le khitanan, la Bouddha, min al-ghusl. Et le hadith qui a dit إذا جهد الرجل المرأة بين شعبها الأربع فعليه الغسل. Ils ont dit عام مخصوص. C'est en général, mais le hadith الذي خصصه, c'est il faut que le début du membre de l'homme, yani, comme on dit, yani, pardon du mot, la tête, il faut qu'elle rentre un peu. Si elle rentre un peu, il y a le ghusl. Si ça rentre pas, juste en haut comme ça, et comme s'il avait touché avec son doigt par exemple, ça ne demande pas le rousse. Inch'Allah ta'ala, c'est compris. Abdelkrim Imara, tafaddal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah, biyakum, hafzakum Allah, shaykhan al-fadil. Ma hiya afdal kutub lati tabhath fi at-tawhid wa al-aqaid sahih. Allah al-alim al-azim. يكتب لكم أجر من يجزيكم الجنة. نعم الكتب معروفة. نعم الكتب التي كتبها شيخ الإسلام معروفة, الحموية واسمه الواسطية في شيخ الإسلام beaucoup de livres comme vous savez, المروكشية, الحموية, beaucoup de livres. Ensuite tout ça écrit son élève Ibn al-Qayyim. Ensuite, maintenant, Allah Azza wa Jal nous a facilité la tâche. Il nous a donné des ulamas qui parlent, yani, de notre niveau. Nous, si on va lire le livre Ta'al Cheikh Islam, là, peut-être on ne va pas beaucoup comprendre. Mais quand tu lis Cheikh Ibn Uthaymeen, tu lis Cheikh Ibn Baz, tu lis Cheikh Fawzan, tu lis Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, yani, nous a facilité la tâche. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus personne, quelqu'un qui pourra dire demain, Ya Allah, je ne savais pas qu'il y avait la Aqida dans les livres, etc. Surtout avec l'internet, avec les chaînes, etc. Je crois que maintenant, il est presque impossible de trouver quelqu'un qui va dire je ne savais pas. Surtout ceux qui vivent à Niagda en Europe et dans les pays. Naam. C'est pour ça que ce que tu fais, naam, mais il demande yani un peu de niveau. Naam. Il faut un peu de niveau pour le lire. D'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah, il a ta'liqat alayh, fawa'id qayyimah jiddan li hadha al-kitab. Naam. كتب ابن القيم ويعني الكبار هذو تاع القدماء. نعم، باش الانسان ما يقراش يعني العقيده اللي راح تفسدو، اي باليغ لي ليغ لا فوس عقيده، باليغ لي ليغ دي يعني دي الشيعه دي جو سي با كوا، فو كي ليز لا فغي عقيده بو كي سوا ان شاء الله تعالى كوم ايتي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم اي كوم ايتي سي كومبانيون، كوم ايتي سلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. توت فاسون Inch'Allah ta'ala, un jour on mettra une liste, elle sera assez longue, Inch'Allah ta'ala. Hawa tafadhali. Qu'est-ce que choubouhat, naam? Qu'est-ce que choubouhat, naam? Il est, masha'Allah. Qu'est-ce que choubouhat, il est, masha'Allah, naam. Surtout que qu'est-ce que choubouhat, il y a même en français. Moi je l'ai vu en Algérie, traduit en français. Une très bonne traduction. Mal SF, je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit après, je l'achète, je ne l'ai pas acheté. Il Cheikh Mohamed Abdou Wahab, naam. Un livre merveilleux surtout. Il a été traduit en français, naam, et beaucoup d'autres, naam. Comment j'ai dit, Hawa, tafadhali. Barakallahu fikoum pour votre temps. Allah ta'ala nij'al hadha fi mizan hasanat. Pouvez-vous écrire votre réponse à savoir la femme doit-elle laver à chaque prière son vêtement, sous-vêtement, salir par les vêtements? Naam. Je redis encore une fois, et pour la troisième ou la dixième fois, les pertes de la femme ne sont pas de la souillure. Lest binajasa. Ça veut dire que même si elle veut faire la prière sans laver, elle peut. Mais les pertes, quand elles sont sorties, elles ont annulé son wudu. Elles ont annulé son wudu. Et elle, avant de faire le wudu, de préférence, question de propreté, yani nadafa, elle fait quoi? Elle lave yani un peu ce qu'il y a yani dans les sous-vêtements. Yani question de nadafa, c'est tout. C'est un peu comme la morve, quand la morve sort du nez. Je l'ai dans le kamis, je peux faire la prière, ce n'est pas une najasa. Mais si je la lave, c'est pour la propreté. Naam, donc c'est pas obligé de la laver. S'il y a les vêtements sont salis, ça n'annule pas. Non, ça n'annule pas la prière. Naam, ça n'annule pas la prière, ça annule seulement le wudu. Ça annule seulement le wudu. Ce n'est pas obligatoire de la laver. On la lave, question de quoi? De propreté. Comme a dit Allah Azza wa Jal, khudou zinatakum 'inda kulli masjid. Donc quand je vais faire la prière, je ne vais pas avec un kamis plein de graisse et plein de shorba et de douara. Non, je vais le laver les taches. Ce n'est pas de la souillure, la shorba et la douara, ce n'est pas de la souillure. Mais je lave la tâche et je fais la prière. La même chose ici, si tu laves, c'est yani, pour être plus yani, présentable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nour al-Yaqin, tafadhal. Jazakallahu khairan. Nour al-Yaqin, tafadhal. Je vois que la liste est redevenue encore une fois. Naam. Maintenant, il est presque 2h du matin, c'est-à-dire 2h moins quart. Je vais encore rester avec vous un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, à 2h, yani, je ferme la salle, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, surtout que salat al-fajr ici, c'est à 3h33. Ça veut dire, il reste seulement 1h30 pour le fajr. Alaykoum salam, quelles sont les conditions pour les engagements ou promesses faites à Allah pour que la sorte la personne de cette situation de l'Occident? Ce sont les conditions pour les engagements aux promesses faites à Allah. Il faut que Allah sorte la personne de cette situation. Nour Yaqin, si tu peux formuler avec une autre phrase, j'ai pas bien compris cette phrase. Si tu peux écrire avec d'autres mots une autre phrase, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Non, j'ai pas bien compris. تفضل الله اشطاطه. Si on est dans une mauvaise situation, on est dans un moment de crainte, on ne sait pas comment sortir. Alors on dit, Naam, Allah, sah. Pas j'ai compris. On dit Allah des choses, si sur cette le Nadr, si sur cette situation, je ferai ceci et cela. Naam. Naam. Ça s'appelle le nadr. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. نعم. Maintenant, je vais relire ce que tu as dit un peu haut. Écoute, Nour Yaqin. Le nadr. Voilà ce que tu veux dire. Toi, ça s'appelle le nadr. Ça se divise en beaucoup de sortes. Mais il se divise, yani bi'tibar mu'ayyan, en une certaine sorte, il se divise que le nadr hada, il y a le nadr que Allah subhanahu wa ta'ala aime et le nadr que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Le nadr que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est quoi? C'est quand on dit ya Allah, je vais par exemple faire le jeûne un mois, je vais donner par exemple tant d'argent, je vais faire manger ou la nourrir tant de personnes sans contrepartie. C'est pas tu me fais, si tu me guéris je fais cela, comme tu as dit toi, je suis dans une mauvaise situation, si tu me fais sortir je fais cela. Allah Azza wa Jalla ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est makruh. C'est comme si on voulait dire ya Allah, je suis dans le pétrin. Si tu me fais sortir, je fais manger, nourrir 60 personnes. Ça veut dire, si tu ne me fais pas sortir du pétrin, je ne vais pas faire nourrir. Là, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jalla n'aime pas ça. Ya Allah, si tu me guéris mon fils, je ferai ceci. Si tu me le guéris pas, je ne vais pas faire. Non, Allah Azza wa Jalla n'aime pas ceci. Mais on le fait d'avance, même si on ne sait pas si on va sortir ou pas. Je sais. Mais, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yustakhraju minhu al-bakhil. C'est-à-dire, c'est l'avare qui fait ça, voilà. C'est-à-dire que, toi, pourquoi tu as fait cette promesse, cet engagement? Parce que tu es dans les mashakil, tu es dans les problèmes. Naam, pourquoi tu ne le fais pas lorsque tu n'es pas dans les problèmes? Donc, tu vas sortir des problèmes ou tu ne vas pas sortir, l'essentiel tu l'as fait à cause des problèmes. Allah Azza wa Jalla aime qu'on fasse la chose pour lui-même, à cause de son visage, pas à cause des problèmes que tu as. Naam, fais l'engagement sans que tu sois dans les problèmes. Naam, fais-le maintenant, demain, après-demain, si tu n'as pas de problème, fais comme ça. Dis ya Allah, je vais faire le carême pendant un mois. Un nadr, je vais donner un quart de ma paye chaque mois, etc. Fais-le, had Allah Azza wa Jalla, il l'aime. Mais ne pose pas la condition, ne dis pas si ceci, moi ya Allah, je vais faire cela. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, ce que Allah Azza wa Jalla aussi, ce qui peut nous faire sortir des mauvaises situations. Voilà, moi je vais te montrer quelque chose qui peut te sortir biznillah, ou peut faire sortir une personne d'une mauvaise situation. Laquelle? C'est que lorsque tu es dans une mauvaise situation, tu as des problèmes, demande à Allah, fais un doua à Allah subhanahu wa ta'ala avec une chose que tu as faite pour lui, pour son visage. Je donne un exemple. Il y a un an, j'ai par exemple aider quelqu'un, ou là j'ai donné de l'argent à quelqu'un, yani en la cause d'Allah, yani il était vraiment dans les mashakil, je lui ai donné je ne sais pas combien, 1000 euros ou là 10 000 ou là je ne sais pas, en la cause d'Allah. Maintenant, ça il y a un an, maintenant je suis dans les problèmes, classe, je vais aller en prison, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai beaucoup de problèmes, qu'est-ce que je fais? Maintenant il est permis que tu fasses un doua en te basant sur la bonne action que tu as faite il y a un an. Je dis, Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a pas un doua qui est accepté s'il n'y a pas la, la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite je dis, Ya Allah, tu sais qu'il y a un an X avait des problèmes et que je lui ai donné 1000 euros. Ya Allah, si j'ai donné ces 1000 euros à cause de toi, à cause de yani, te satisfaire, fais-moi sortir aujourd'hui ce problème. Et là je te dirai que si vraiment tu avais donné les 1000 euros ou les 200 euros en sa face à cause de lui, ce jour-là il te fera sortir du problème, comme ont fait les trois personnes qui sont rentrées dans la caverne dans le hadith du Bukhari. Pardon, ils sont rentrés dans la caverne. La caverne, on boit l'alcool. Ils sont rentrés dans la caverne. Dans la caverne, ensuite un grand rocher est tombé et ils ne pouvaient plus sortir. Alors ils ont dit, maintenant on ne peut plus rien faire que de faire des douas avec nos bonnes actions qu'on a faites. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, tu sais que j'avais des parents et que yani, à chaque fois je faisais j'avais une vache, je sais pas comment dire, on fait sortir du lait, je faisais sortir le lait des mamelles de la vache. Ensuite il a dit que Ya Allah, tu sais que je ne buvais jamais avant que ne boivent mes parents, et qu'un jour je suis venu à la maison pour leur donner à boire, ils s'étaient endormis. Ya Allah, tu sais que je suis resté comme ça éveillé devant yani devant eux en train de les attendre jusqu'à Salat al-Fajr. Quand ils sont réveillés Salat al-Fajr, je leur ai donné à boire. J'ai pas voulu boire moi le premier. Ya Allah, si j'ai fait ça pour te satisfaire, fais-nous aujourd'hui yani, sors-nous de la situation. Alors le grand rocher, qui est un rocher que personne ne peut bouger, peut-être une grue ne peut pas le bouger, a commencé à trembler et il s'est déplacé un peu. Ils ont commencé yani, à se boire, yani, l'air à respirer, l'air a commencé à rentrer. Alors ils ont dit, maintenant toi le deuxième, fais-nous un doigt. Le deuxième a dit, ou bien le troisième, il a dit, Ya Allah, tu sais que j'avais quelqu'un qui travaillait chez moi, ensuite yani, le jour où j'ai voulu lui payer, il travaillait comme moi, yani, je lui donnais yani, pas de l'argent, je lui donnais un peu de riz, etc. comme yani, paye. Et tu sais, Ya Allah, qu'une fois yani, lorsque j'ai voulu lui donner son argent, il m'a dit, j'en ai pas besoin. Parce que, qu'est-ce que je fais d'un peu de riz là? Il est parti, il l'a laissé. Ya Allah, tu sais que j'ai vendu ce riz, avec ce riz j'ai acheté une vache, ensuite j'ai acheté un bœuf, ensuite il y a eu des veaux, etc. jusqu'à ce que ça soit devenu beaucoup. Il y a beaucoup de veaux, beaucoup de vaches, beaucoup de brebis, beaucoup de... Ensuite il a dit, Ya Allah, tu sais que un jour le bonhomme est revenu. Il m'a dit, donne-moi, yani, rends-moi ce que j'ai laissé ici. Alors l'autre, il lui a dit, tout ce que tu vois ici devant toi, tous ces animaux sont à toi. L'autre, bien sûr, il s'est étonné. Il a tout pris. Alors, celui qui était dans la caverne, il a dit, Ya Allah, si j'ai fait ça en toi, et pour se satisfaire, fais-nous aujourd'hui une solution. Ensuite, le grand rocher s'est déplacé jusqu'à ce qu'il pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur, à l'extérieur, sauf qu'il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas. C'était un lien un peu petit. Alors, le troisième a fait un doua, il a dit, le deuxième, il a dit, Ya Allah, tu sais que j'avais une cousine, qu'elle était très belle et que je l'aimais beaucoup, et qu'une fois je lui ai demandé qu'elle me laisse faire la zina avec elle et qu'elle n'a pas accepté. Alors une fois j'ai attendu, quand elle avait vraiment des problèmes d'argent, elle n'avait pas d'argent, elle m'a dit, yani, prête-moi de l'argent. Je lui ai dit qu'avec une condition, tu me laisses faire la zina avec toi. Alors comme elle n'avait pas d'argent, elle était dans la darura, là qu'est-ce qu'elle va faire, elle va mourir, alors elle a accepté. Alors il a dit, Ya Allah, tu sais que quand je me suis yani, rapproché d'elle et j'ai voulu faire ce que fait l'homme avec la femme, elle m'a dit, ittaqillah, aie peur d'Allah, wa la tafudd al-khatim illa bihaqih, et yani, ne fais pas cela que lorsque tu as le droit. Ça veut dire que si tu étais marié, ittaqillah, ne fais pas cela, tu n'es pas mon mari. À peu près elle a dit cela. Il a dit, dès que j'ai entendu qu'elle a dit ittaqillah, je l'ai laissé, je suis parti et je lui ai laissé les 1000 pièces en or. car elle avait demandé qu'il lui prête 1000 dinars. Il a dit, j'ai tout laissé. Ya Allah, si tu sais que je l'ai, j'ai laissé la femme et mon argent, mon or, à cause de j'ai eu peur de toi, c'est nous une solution aujourd'hui. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal a fait trembler le grand rocher et il l'a déplacé complètement. Et ils sont sortis les trois tout en marchant et sont allés chacun à leur maison. Regardez, le grand intérêt c'est quoi? Regardez quand on a de bonnes actions. Quand on a de bonnes actions, on les a faites, il viendra le jour où on aura besoin de ces actions. On aura besoin quand tu es dans les problèmes, tu as les mashakil, tu vas voir dans la banque qu'est-ce que tu as comme bonnes actions. Si tu as laissé déjà des bonnes actions, hein, tu profites de faire des doigts avec certaines bonnes actions, surtout avec les meilleures actions. C'est-à-dire, premièrement, le deuxième intérêt, regardez quand on marche et on fréquente les gens qui sont pieux. Regardez. Imaginez que trois rentrent dans une taverne, l'un d'eux, il boit l'alcool, l'autre il fait la zina, et l'autre il vend la drogue. Maintenant, classe, le rocher a bouclé et a bouché la sortie. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Il va dire, ya Allah, tu sais que je vendais la drogue. Et l'autre, il dit, ya Allah, tu sais que du matin au soir, je bois de l'alcool. Et l'autre, il dit, ya Allah, du matin au soir, je cours derrière les femmes. Fais-nous une solution. Allah Azza wa Jal va les anéantir. Il va faire descendre toute la montagne sur leur tête. Alors regardez, alhamdoulilah, quand quelqu'un fréquente les gens qui sont pieux. Regardez, il y a toujours une solution. Et d'ailleurs, qui a empêché l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de devenir musulman, si ce n'est pas Abu Jahl, si ce n'est pas la mauvaise fréquentation? Le prophète alayhi wa sallam lui dit, ya am, dis un mot, une phrase, et inshallah, yani, ça pourra rentrer au paradis. Il ne peut pas la dire parce que les autres, Abu Jahl et les autres disent, comment tu dis cela? Tu veux pas me, yani, tu laisses le dîme de tes ancêtres, hein, et il n'a pas dit la ilaha illallah. Pourquoi? À cause de la clique, la mauvaise clique qui était avec lui. S'il était seul, c'est sûr qu'il l'aurait dit, même par honte il l'aurait dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comment Allah azza wa jal a cité un chien dans le Coran, un chien, wa kalbuhum fi sourate al-kahf, wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit. Pourquoi le chien? Allah le cite dans le Coran parce que c'est un chien qui a fréquenté des gens pieux. Ils ont été tellement pieux que lorsqu'ils ont eu une mouchkila avec le gouverneur, ils se sont enfuis pour aller adorer Allah. Alors le chien qui était avec eux, Allah l'a mentionné dans le Coran. Subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Un chien mentionné dans le Coran à cause de la bonne fréquentation. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Kathir, on revient vers toi, Inch'Allah. Il reste maintenant combien? Il reste 2 minutes dans ma montre. Tafadhal.
Salam alaykoum. Barakallahu fik. Donc je répète, excuse-moi Arifillah, j'ai été coupé dans mon ordinateur tout à l'heure. Donc est-ce que tu te souviens des deux premières questions ou il faut que je les répète? Est-ce que je répète les deux premières ou je dis juste la troisième? Barakallahu fik. Ok, Barakallahu fik. Je répète la troisième question, Arifillah. Donc c'était ma troisième question. Est-il permis de poser une question lors d'une assise, c'est-à-dire une assise lors d'un cours, d'un dash ou d'une assise, d'une assemblée, est-il permis de poser la question au frère ou au shir qui fait le cours alors qu'on connaît la réponse déjà, dans la niya de soit compléter le cours, soit d'enseigner aux gens qui écoutent l'assemblée, soit de corriger le shir? Barakallahu fik. Est-ce qu'il est permis de faire cette chose-là? Jazakallahu khair. Et concernant la question que tu m'as posée, Akhi, tout à l'heure, disant est-ce que c'est toi qui fais des cours, je me suis renseigné avec les autres frères, mais je pense que c'était bien de moi que tu parlais. C'est bien moi, Ibn Kathir, à qui tu voulais poser une question. J'ai demandé avec des frères, mais je pense que c'est bien moi qui étais concerné. Mais j'ai répondu non parce que je fais pas de cours, Akhi. On fait des dars entre frères comme ça, mais je fais pas vraiment de cours. Moi, je donne pas des cours. Barakallahu fi. Jazakallah.
En ce qui concerne la première question, quand quelqu'un, par exemple, commence à jeûner en France, supposons. Ensuite, il part dans un pays où il trouve, par exemple, que c'est l'Aïd. Par exemple, il trouve que c'est l'Aïd. Il doit faire l'Aïd avec eux. Jamais il ne dit, oh, moi, je reste avec mon pays d'origine. Il faut qu'il fasse l'Aïd avec eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il voit combien de jours il lui reste, il les rattrape. Maintenant, si c'est le contraire, il va dans un pays et il trouve que ce pays fait encore le jeûne. Normalement, dans son pays, par exemple, c'est aujourd'hui l'Aïd. Mais eux, ils sont encore en train de faire le jeûne. Il doit faire le jeûne avec eux. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quitte à ce que il jeûne 31 jours ou 32 jours. Ça ne fait rien. Tu jeûnes 31 jours, tu jeûnes 32 jours, tu jeûnes. Pourquoi? Parce que tu es dans un pays où ils sont en train de jeûner. Voilà. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris cette, je te répète. Naam, si c'est 28 jours, s'il part dans un pays, il mange, il voit. Si c'est dans les deux pays, c'est 28 jours, si c'est dans le pays, les deux pays, 28 jours, d'ailleurs, il n'y a pas 28 jours en islam. En islam, il y a 29, il y a 30. Il n'y a pas, si c'est 28 jours, il voit les autres pays. Si dans les deux pays, c'est par exemple 29-29, il fait un jour. Si un pays a jeûné 30 et l'autre 29, il fait deux jours. Comme ça qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Lahmou. Mais si seulement 28 jours, il n'y a pas 28 jours. Il faut au moins 29. Non. Mais maintenant, dans le cas contraire, même s'il dépasse 31 jours, 32, ça ne fait rien. C'est quoi? Non, j'ai pas compris, Osmout. J'ai pas compris. Non, il n'y a pas 27 jours. Je crois. 27 ans de décalage. Non, il n'y a pas 27 jours. Il ne peut pas lui dire, Yanni, je fais 27 jours. Il n'y a pas, dans la religion, 27 jours. Dans le mois, des fois il est 30, comme a dit le Prophète, et des fois il est 29. Il n'y a pas 27 jours, et il n'y a pas 28 jours. Non, il n'y a pas 28. Il y a 29 et il y a 30. Il n'y a pas 28. 28, c'est chez le calendrier des chrétiens. 28, c'est le mois de février. Ça, il n'y a pas en islam. En islam, il y a 29 et il y a 30 jours, Inch'Allah Ta'ala. Il y a 30 jours. Pour la deuxième question, pour la hijra, comme j'ai dit, il y a une cassette que je vous ferai entendre, Inch'Allah, très bientôt. Je dis qu'en général, on ne fait pas la hijra dans un pays où il y a des problèmes. Cher soit que 15 minutes supplémentaires pour nous accorder par respect pour lui, pour dépendre de lui. Naam. Barakallahu fikoum Ishaq. Qu'est-ce que je disais? Je disais que. J'ai oublié. Naam, pour la hijra, je donne un conseil à mes frères, à mes soeurs, et à mes fils, à mes filles, que j'aime beaucoup. Quand vous faites la hijra, Inch'Allah vous la ferez aussi, faites-la dans un pays où vous n'aurez pas de problème. N'allez pas dans un pays où vous allez avoir de problème, alors ce qui va vous pousser à revenir vers le premier pays. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti vers Médine, il n'est jamais revenu pour habiter Mecca. Maintenant, nous on voit des gens, ils font la hijra, ils laissent le pays. Ils veulent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font la hijra. Ensuite ils vont là-bas, ils choisissent mal le pays, ils restent une année, deux années, ensuite ils disent non, c'est pas possible de continuer, je peux pas, et ils reviennent vers le premier pays en l'aimant plus que la première fois avant de le quitter. Il part pour faire la hijra et voilà qu'il revient vers son pays d'origine en pleurant, en suppliant pour revenir. Pourquoi? Il va dans un pays où il y a des machakis. Il va, je ne sais pas, il va au Yémen, il va, je ne sais pas quoi, où il y a la guerre, où il y a que là. Ensuite, il dit, j'ai fait la hijra, j'ai pas réussi. Tu fais la hijra, tu essayes d'avoir les papiers, tu essayes de partir vers un pays ou yani, on t'accepte, ou on te fait des papiers, ou on fait ceci. Pourquoi on veut faire la hijra? Pour adorer Allah mieux. Sinon, si je vais faire la hijra et je ne peux pas dormir la nuit, j'ai peur de la police, j'ai peur des gendarmes, j'ai peur d'aller en prison, ça c'est pas la hijra. Ça, je ne peux plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ce n'est pas de papier dans celui-là, je n'ai pas compris. Maintenant, s'il ne peut être accepté dans aucun pays, il n'a pas les papiers dans aucun pays, il choisit un pays où il y a le moins de machakil, où il y a le moins de machakil, où on ne lui fait pas de problème. Il choisit un pays où il y a le moins de machakil. Naam. Pour la troisième question, naam, pour la troisième question, comme Cheikh Ahmed Al-Ansari, Allah, je ne connais pas qui c'est Cheikh Ahmed Al-Ansari. Je ne sais pas qui c'est. Pour la troisième question, on peut poser une question tout en connaissant la réponse si on a une bonne intention. Par exemple, nous sommes dans un groupe et je pose une question pour que les autres apprennent. Je dis par exemple au Cheikh, qu'en est-il de quelqu'un qui fume? Est-ce que sa salat est acceptée? Alors que moi je fume pas et je connais la réponse. Je connais que la réponse que sa salat est acceptée. Mais il a seulement des péchés. Mais pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je connais, je sais qu'il y a quelqu'un devant nous, quelqu'un avec moi, là dans le groupe, qui a l'habitude de fumer. Ah, ça, maintenant j'ai compris. Naam, Ansari, alayhi rahmatullah. Donc dans ce cas, on peut poser une question. Donc c'est d'après l'intention. Pourquoi je pose la question? Si je pose la question pour que les autres maintenant profitent, ou là pour qu'il explique encore mieux, qu'il éclaircisse encore mieux, ça c'est possible. Mais si je pose la question alors que je connais la réponse pour d'autres intentions, de mauvaises intentions, je peux même avoir des péchés. Regardez Jibril alayhi salam, il posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal islam, mal iman, mal ihsan. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait, Jibril, qu'est-ce qu'il disait? Il disait sadaqt, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire sadaqt? Ça veut dire je connais la réponse. Ça veut dire je la connaissais. Donc, pourquoi il a posé la question? C'est, pourtant il connaissait la réponse. Les ulama ont dit, ici les ulama ont dit, quand on pose une question, pour apprendre les gens, on a beaucoup de ajr. Et on a l'intention que les autres apprennent. Ils ont dit comme le hadith de Jibril. C'est pour ça qu'ils ont dit que des fois là, poser une question, c'est apprendre. Poser une question, c'est comme si tu as appris aux autres. Car le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit Hada Jibril, Ja'a yu'allimukum dinakum. Il a dit c'est Jibril qui vient de partir. Il est venu vous apprendre votre religion. Et Jibril, est-ce qu'il nous a appris quelque chose? Non, il a seulement posé des questions. C'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan, c'est quoi l'islam? Donc, seulement en posant des questions, le prophète a dit, c'est Jibril, il est venu vous apprendre. Regarde, quand on pose une bonne question, ça veut dire on apprend aux gens. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maintenant, il reste qui? Autre chose, Ibn Kathir. Naam. Pourquoi je t'ai dit, est-ce que c'est toi qui fais les dars dans une salle où ce n'est pas toi? Parce qu'une fois je t'ai entendu dans une salle, j'ai pas beaucoup entendu, mais j'ai senti quand tu parlais, j'ai senti dans mon cœur que yani, tu parlais avec sincérité et tu voulais faire yani, apprendre aux gens, etc. C'est pour ça que je te conseille, si tu fais hack dans une salle ou là, de mettre les points rouges, parce que j'ai vu les gens qui disait n'importe quoi et qui voulait t'embêter et qui voulait, je sais pas, faire le jidal, etc. C'est pour ça que je voulais te donner le conseil de yani, faire le point rouge. Celui qui veut rester apprendre, il reste. Celui qui veut pas, qu'il aille dans une autre salle. Naam. Wafika barakallah. Ibrahim 13, tafadhal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa il y a une sœur qui demande des petites questions. Il y a une sœur qui demande si elle veut savoir si la femme, quand elle sera à la mosquée, hein, a-t-elle des hasanat? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est la question d'un frère qui pose. Il dit Assalamu alaykum ya Cheikh, qu'Allah vous récompense. Ma question est, dans mon métier de cadre supérieur, je suis dans l'obligation lors de réunions de projets de serrer les mains des femmes de Koufar. Je sais que c'est haram, mais je n'ai pas le choix, car je dois travailler pour avoir de l'argent, car j'ai l'intention de faire hijra fi sabilillah bi idhnillah. Et comme vous le savez, il n'est pas aisé de s'installer dans un pays sans un minimum de sécurité financière, surtout si vous êtes marié et que vous avez des enfants. Dois-je dire non? Je ne serre pas la main aux femmes, au risque de me faire expulser de mon travail. Et par la direction de l'entreprise pour motif de mon intégration dans ma sociabilité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit leur dire que je ne dois pas serrer la main aux femmes? Risque de se faire expulser de son travail. Risque de ne pas être intégré aux yeux des coufards. Barakallahu fi kachir.
أخي واسمك إبراهيم إبراهيم فاز le son chez moi est يعني grave, il n'est pas aigu. J'ai pas bien compris la deuxième question. J'ai pas bien compris ça parce que la voix est un peu grave. Grave, c'est pas les mots, je ne comprends pas bien. Allez, premièrement, deuxièmement, يعني tellement la question était longue, elle m'a fait oublier la première. J'ai oublié la première question. Alors répète les deux. Barakallahu fik.
La première question, il y a une sœur qui demande, je vais vous commencer par la première, Inch'Allah, par la deuxième, enfin. Il y a un frère qui demande, dans son métier de cadre supérieur, il est dans l'obligation lors de réunions de projet de serrer la main des femmes de Koufar. Je sais que c'est haram, mais je n'ai pas le choix, car je dois travailler pour avoir de l'argent, car j'ai l'intention de faire hijra fi sabilillah bi idhnillah. Et comme vous savez, il n'est pas aisé de s'installer dans un pays sans un minimum de sécurité financière, surtout si vous êtes marié et que vous avez des enfants. Que puis-je faire? Dois-je dire non? Je ne serre pas la main aux femmes, au risque de me faire expulser de mon travail par la direction de l'entreprise pour motif de non-intégration et de non-sociabilité. Et la première question, c'est une sœur, elle demande si, quand la femme se rend à la mosquée, a-t-elle des hasanats? Ça, c'est la première question. Quand une femme se rend à la mosquée, a-t-elle des hasanats? Barakallahu fik.
Non, pour la première, c'est-à-dire celle qui est affichée. C'est-à-dire dans mon métier de cadre supérieur, je suis, etc. Chauffe, en principe. Moi, j'ai remarqué une chose et j'ai une tajriba, une expérience en cela, Inch'Allah Ta'ala. Ou quand quelqu'un commence un nouveau travail ou il n'est pas connu, yani, la première semaine ou là, il apprend aux gens que voilà, yani, moi, je ne serre pas la main aux femmes. Ou regardez, il peut le faire, ce n'est pas en brusquant les gens. C'est pas la femme, elle sait pas, elle jette la main, tu vas la laisser comme ça devant tous les gens, etc. Mais c'est lui qui commence. Le premier jour qu'il rentre là, il parle avec les femmes, il leur dit gentiment, pardon, je voudrais vous dire une chose, j'espère que vous me compreniez, ou que je suis désolé peut-être vous le dire, mais il faut que je vous le dise. Voilà, moi, franchement, je ne touche pas la main aux femmes, vous m'excusez, voilà, c'est pas que, je vous déteste, mais c'est comme ça, mon islam ne me permet pas, ou là, Inch'Allah Ta'ala, je suis sûr que toutes les femmes vont te respecter. Maintenant, s'ils vont te dire on t'accepte pas dans le travail ou là, le prophète sallam a dit, man taraka shay'an lillah awadahu khayran min. Le prophète sallam a dit, quiconque laisse quelque chose à cause d'Allah, Allah lui donnera mieux. Maintenant moi, si j'ai cette conviction dans le cœur, même s'il m'expulse, Allah va me trouver un travail qui est mieux que celui-là, qui est mieux que celui-là. Mais celui-là, il a fait la faute, il n'a pas dit. Yani à chaque fois, il tendait sa main, etc. Il n'aura pas appris que c'est interdit. Ensuite, deuxièmement, la faute aussi, c'est à lui. Pourquoi la faute, c'est à lui? Parce que c'est lui qui est dans un pays trop fort. S'il était dans un pays musulman, c'est plus facile pour la musulmane qu'elle comprenne cela. Par exemple, en Algérie ou là, en Arabie Saoudite ou là, il est impossible que la femme ne sait pas ou ne sache pas que yani, ce qu'on appelle les frères musulmans ou les barbus ne tendent pas la main aux femmes. Tout le monde sait cela. Mais lui, il est dans un pays trop fort. Et qui est-ce qui l'a forcé à être dans un pays trop fort où il ne peut pas pratiquer sa religion? Troisièmement, il y a autre chose. Lui, il essaye de limiter les dégâts au maximum. Il essaye de limiter les dégâts au maximum. Yanni, quand il rentre comme ça, il essaye, yanni, il rentre avec les mains derrière la main, il dit yanni, bonjour tout le monde, kada, yanni, de loin. Quand il est assis, par exemple, il voit qu'une femme est venue et elle a commencé à tendre la main. Avant qu'elle arrive chez lui, c'est pas, il laisse qu'elle arrive et elle tend sa main, il la laisse comme ça. Avant qu'elle arrive, il sait qu'elle va arriver, il reste quatre personnes ou là, il trouve une excuse et il va aux toilettes ou là pour qu'elle tende pas sa main. C'est pas, il laisse qu'elle tende sa main. Il la laisse comme ça devant les gens. Non. Il trouve une excuse avant qu'elle arrive. Avant qu'elle donne sa main, avant que ça soit son tour. Il trouve une excuse pour yani s'enfuir. De toute façon, fattakullah mastata'tum. Moi, je dis à cette personne de limiter yani au maximum les dégâts et que il cherche, en même temps, il commence à chercher un travail. Il commence à faire des doigts pour que l'Azerji lui trouve un travail où c'est seulement avec les hommes ou bien qu'il y en ait, fasse la hijra et qu'on fasse, inshallah ta'ala, il n'aura plus de problème. En ce qui concerne la femme qui va à la mosquée, est-ce qu'elle a les hasanat? Si elle va à la mosquée avec l'autorisation, yani elle dit à son mari, je vais à la mosquée, et elle part avec, elle va à la mosquée avec les conditions, c'est-à-dire habillée d'un habit yani religieux, c'est pas avec une jupe qui fait montrer par exemple les tibias, etc. Et yani un libas shar'i, et elle va à la mosquée non pas pour rencontrer les femmes et discuter du mariage et du divorce et de l'or, non, elle va là-bas pour parler du din, pour voir les sœurs, pour yani comment vont les sœurs, est-ce qu'elles vont bien en question d'iman, et pour entendre des douloureux et pour apprendre. En ce sens, inchallah ta'ala, elle a les hasanats. Mais si elle part seulement pour discuter là-bas et plaisanter, ça n'est pas permis. Elle risque même d'avoir des péchés parce que la mosquée, elle n'a pas été construite pour ce but. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Combien qu'il reste? L'avant-dernier, il reste 4 ou 5. Maintenant, il est 2h20. Il ne reste pas beaucoup pour le Fajr. Je n'ai plus qu'une solution, c'est de terminer et d'aller faire la prière ta'al fajr. Sauf s'il y a plus de questions. Tfadal, Hassan Abouliyah, tfadal. Hassan, tfadal, pose ta question. Il y a sa bonne anus. Veuillez ne plus lever vos mains. Barakallahu fik. Naam. Moi, alhamdoulilah, yani demain. Naam. Je vous ai une question pour le coréen. Naam. Demain, inshallah ta'ala, je travaille pas, yani je travaille seulement comme imam, parce que je travaille comme autre chose, mais je travaille demain seulement comme imam. C'est pour ça que je vais dormir après salat souk. Tafadhal.
Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, moi ma question en fait, c'est là, je suis en train d'apprendre Mustalah al-Hadith avec plusieurs livres, et là je suis tombé sur le livre de Cheikh Al-Taymin rahimahullah. Un moment, quand il veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire le hadith Hassan l'Iraïri, à la base Hassan l'Iraïri, c'est un hadith qui est daif, mais qui est devenu Hassan parce qu'il a été rapporté sur plusieurs voies. Et Cheikh Al-Taymin, il utilise un hadith qui est daif, donc qui est maintenant Hassan Nirayrihi, il dit que c'est le hadith, je vais citer, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ida madda yadayhi fi du'a, lam yarudduhuma hatta yamsah bihima wajah. Et je ne sais pas si on peut l'appliquer ce hadith-là ou non, c'est tout. C'est juste ça ma question. Et parce que je ne sais pas, si lui dit que c'est un hadith Hassan, c'est qu'il doit être bon à l'application, et donc je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Marc Lofi qui est cher.
Naam, Fika Barakallah. Le hadith, quand il est faible, pour qu'il monte un rang, il devienne Hassan Dirayrihi, il faut bien sûr que la faiblesse ne soit pas dans le rapporteur en ce qui concerne, par exemple, si c'est un menteur ou là. Dans ce cas, il ne peut jamais devenir Hassan Dirayrihi. Il reste toujours en bas. Mais quand c'est dans seulement la mémoire, il n'a pas une très bonne mémoire, etc., et qu'on trouve d'autres toruq ukhra lil hadith, yanjabiru biha, c'est comme du plâtre. Comme on fait le plâtre à quelqu'un qui a une main cassée, il devient Hassan Dirayrihi. Naam. Ce hadith, bien sûr, puisque Cheikh Ibn Uthaymeen a dit Hassan Dirayrihi, ça veut dire qu'on peut l'appliquer. On peut l'appliquer d'après, bien sûr, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Mais tout le monde sait que si on parle si on fait une comparaison entre Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Al-Albani dans le hadith, que Cheikh Al-Albani est beaucoup et c'est-à-dire plus fort dans le hadith. Pourquoi? Parce que c'est sa spécialité. Comme a dit Cheikh Ibn Baz, il faut que quand quelqu'un, un alim, dit une chose et l'autre le contrarie, on voit la spécialité du alim. Et ici, non, mais les arguments. Quoi les arguments? Les arguments, bien sûr, il les a chez Al-Albani, c'est que le hadith Hada ne peut pas monter, ne peut pas se soulever ou la monter pour devenir Hassan. Il reste toujours faible d'après la.
Cher, vous êtes là? Raymond, il a un problème de connexion, Allah, il va revenir, Inch'Allah. Salam alaikum.